Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence, bienvenue aux uns, aux unes, à tout le monde. Bienvenue donc à ce nouveau Mardi de l'espace qui est organisé par le CNES. Alors le monde des lanceurs est en train de connaître un nouveau printemps. On peut en avoir l'impression, les projets de fusées, comme on les appelle parfois, fleurissent sur tous les continents. Il y a des innovations multiples qui arrivent, de nouveaux types de propulsion avec de nouveaux moteurs, des lanceurs moins coûteux, plus éco-responsables, et puis plein de projets chez les mini-lanceurs, micro-lanceurs, mais aussi chez les lanceurs méga-lourds. Alors, à quoi va ressembler l'avenir du lancement spatial? Quel rôle l'Europe, quel rôle la France peuvent-ils jouer dans ce domaine? Est-ce qu'on assiste vraiment à un nouveau printemps dans le domaine des lanceurs spatiaux? On va en discuter au cours de ce Mardi de l'espace qui s'intitule « Lanceurs spatiaux du futur vers un accès autonome et compétitif à l'espace ». C'est un événement qui est organisé par le CNES, l'agence spatiale française. Alors, on va prendre beaucoup vos questions, hein, parce que vous allez avoir un rôle éminent, c'est toujours le cas au Mardi de l'espace, et vous allez pouvoir les poser directement à nos trois intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Jean-Marc Pahut, Pascal Noir et Léonard Pinault. Messieurs, bonsoir. Est-ce que vous voudriez bien nous dire qui vous êtes, les uns et les autres? Prenez un micro et dites-nous qui vous êtes.
Alors, moi, je suis Jean-Marc Pahut, donc je travaille au CNES. Au CNES, je dirige une équipe de projets qui, justement, développe l'ensemble des projets de préparation du futur dans le domaine du transport spatial pour le compte du CNES. Voilà.
Votre titre, c'est sous-directeur Projet futur et innovation des systèmes de transport spatial, donc au CNES. On continue avec vous, Pascal Noir.
Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Pascal Noir. Donc, je travaille au CNES depuis assez longtemps. Hein. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur les développements d'Ariane, d'Ariane 5 en particulier. Et maintenant, donc, je fais partie de la sous-direction Projet futur. Et plus particulièrement, donc, je suis chef de projet des activités R&T système et démonstrateur. Dans le fil de la discussion, on précisera un peu tout ce qui est système et les démonstrateurs.
Chef de projet R&T Systems, donc c'est recherche et technologie sur les systèmes lanceurs et démonstrateurs au CNES. Donc voilà, c'est aussi, vous connaissez bien ce sujet des lanceurs également. Et puis Léonard Pinault est avec nous également.
Oui, bonsoir, Léonard Pinault. Donc je suis ingénieur système chez Maya Space.
Maya Space.
Voilà, donc Maya Space est le nouveau-né dans la famille des compagnies qui essayent de développer des lanceurs et les opérer dans des micro mini lanceurs. Donc c'est une filiale d'Ariane Group, donc Ariane Group qui est assez bien connue, hein, maître d'œuvre d'Ariane. Et donc Ariane Group a décidé de lancer une spin-off, une filiale, hein, qui s'appelle MySpace à 100% Ariane Group, dans le que j'ai rejoint en septembre. Donc c'est assez récent. Voilà, donc qui a l'ambition de développer un micro-mini-lanceur partiellement réutilisable et éco-responsable.
Donc un micro- et mini-lanceur partiellement réutilisable et qui volerait en 2025, hein, premier
exactement,
vol 2025.
On vise 2025 pour le premier vol, pour un service opérationnel et commercial dès 2026.
Bon, et moi-même, je m'appelle Paul Debrem, j'anime les Mardis de l'espace et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Et puis on a Mehdi Bourayou avec nous. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour.
Alors Mehdi, on a toujours un accompagnateur, quelqu'un qui nous emmène dans ces univers musicaux. Mehdi, tu as prévu une chanson d'introduction.
Depuis les temps préhistoriques, l'homme a toujours aimé lancer. Mais ça le rendait hystérique d'être impuissant face aux lois de la gravité. Puis chez les Grecs, ce fut épique, on a lancé de grandes idées. Et des débats philosophiques aux Jeux Olympiques, c'est des disques qu'on lançait en l'an zéro. On lança un nouveau héros à la Bastille. On lançait les têtes comme des quilles. Oui, mais aujourd'hui ça balance. Greta Thunberg, Julian Assange. Pour une nature plus verte, une société plus ouverte, ils nous lancent des alertes. Faut lancer, car quand on voit du haut des cieux peu. Notre petit monde bleu, si fragile à nos yeux, nous est précieux. Pour lancer, pas besoin d'être allé à l'école. Suffit de savoir compter de 10 jusqu'à 0 et ça décolle. Hein, Paul ? Je laisse Paul et sa belle voix de basse lancer le dernier mardi de l'espace.
Bravo. Alors il est lancé ce débat. Merci beaucoup, Mehdi. Alors j'ai commencé par dire qu'il y avait un. On assistait à une espèce de nouveau printemps dans le domaine du lancement. Vous êtes d'accord, Monsieur Bahut, par exemple ?
Ben oui, c'est vrai, parce que on voit beaucoup de projets de nouvelles fusées qui se préparent. Et donc, ben c'est bien parce que ça renouvelle tout l'écosystème industriel avec les agences. Et donc, ça donne une nouvelle dynamique à tout ça et c'est très bien.
Monsieur Noir, vous êtes d'accord? Un nouveau printemps, là? Il y a une efflorescence de nouveaux projets?
Oui, je suis d'accord. Donc, bon, il y a différentes sortes de lanceurs. Pour ce qui nous concerne, bon, il y a tous les petits lanceurs, qui ont, on va dire, l'actualité. Et bon, la préparation du futur. Bon, on voit que, même si nous, on n'est pas encore tout à fait là, il y a pas mal de gros lanceurs qui sont en cours de préparation. Que ça soit SpaceX, mais il y en a d'autres, hein. Donc, il y a Jeff Bezos, donc, avec Blue Origin. Il y a une donnée en fait qui n'existait pas jusque-là. Qu'on est obligé de prendre en compte, c'est la montée en puissance en fait de toutes les exigences environnementales sur les lanceurs.
Et c'est on va en parler, bien sûr. Voilà. Ouais. Il y a tellement de choses à dire, hein, effectivement, parce que c'est donc, pas n'importe quel nouveau lanceur. Hein. Ils sont notamment éco-responsables, hein, pour certains d'entre eux. Donc c'est tout à fait nouveau. Alors de quoi est-ce qu'on parle en premier ? Est-ce qu'on parlerait des petits lanceurs d'abord ? Ça nous donnera l'occasion de faire mieux connaissance avec Léonard Pinault. Ben, on va commencer avec vous, Léonard Pinault. Je vous propose, voilà, on va avoir un exemple concret. Nous parler de Maya Space. Donc Maya Space, il faut le savoir, c'est une compagnie qui n'existait pas il y a un an. On est d'accord ?
Oui, c'est l'une des dernières années, tout à fait. Donc c'est donc là pour reprendre un peu la question, hein, c'est cette floraison de projets. Il essaye d'adresser un marché de petits satellites. Micro-petits satellites, donc grâce à la miniaturisation, la promesse des constellations, etc. Donc ce marché, en tout cas cette promesse de marché, on verra si elle se concrétisera, eh bien elle a besoin d'un système de lancement. Alors après, les gros lanceurs sont plus efficaces en termes économiques, hein, c'est le gros bus, mais il y a le pari d'avoir besoin de taxis, hein, donc de plus petits lanceurs. Et donc, pour parler de MayaSpace, on est arrivé un peu en dernier, mais malgré tout, on avait incubé l'idée dans le cadre d'ArianeWorks, donc un partenariat entre Ariane Group et le CNES, qui a travaillé cette idée de capitaliser sur les technologies déjà démarrées par le CNES et reprises par l'ESA, Prometheus, Themis, etc. C'est des grands problèmes liés à la réutilisation des lanceurs et la recherche de bas coût. Et donc l'idée de MayaSpace, c'est capitaliser sur ça et de transformer l'essai, c'est-à-dire au-delà de la démonstration de cette technologie clé pour l'Europe des lanceurs, c'est d'en faire un micro-mini lanceur réutilisable et consommable. Donc
c'est pas la même chose, hein, c'est contradictoire. Soit on est réutilisable, soit on est consommable. Alors, donc, il y a des versions dans lesquelles on est réutilisable et des versions dans lesquelles on n'est pas réutilisable. Est consommable.
Ouais, voilà, c'est l'approche qu'a démontré magnifiquement SpaceX avec le Falcon 9. Donc, en tout cas, chez MayaSpace, on duplique la stratégie de l'architecture. Hein, donc, une approche très, très similaire entre les deux versions avec des pieds d'atterrissage.
Deux versions, parce qu'il y a deux versions pour votre...
Version réutilisable, version consommable.
Micro-lanceur.
Voilà. Alors, donc, si il y a un enjeu de performance et voilà.
Voilà. Donc, si on regarde, c'est la page... Ah bah attendez, parce que j'ai pas le numéro de page là-dessus. Hop, c'est la page numéro 5. Voilà, il n'y a pas le numéro de page, mais vous allez reconnaître, c'est ce qui s'appelle lanceur léger. La page lanceur léger, page numéro 5. Alors là, vous êtes à gauche, hein, MayaSpace, c'est votre lanceur. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Donc c'est un lanceur composé de deux étages. Alors en fait, on manipule aussi un troisième étage qui va être optionnel, qui permet d'apporter un peu plus d'agilité, qui serait tout petit. Mais voilà, je mets le plus intéressant là, c'est de parler de ce qu'on voit, c'est-à-dire les deux gros étages. Le premier étage qui est un étage réutilisable, qui peut revenir sur Terre, à l'aide de donc de trois moteurs Prometheus. Donc Prometheus, ils servent avant tout à décoller, mais ils vont aussi être utiles pour atterrir, donc comme la fusée de Tintin, hein, et comme ce que fait Falcon 9 chez SpaceX.
Donc ce premier étage décolle, évidemment, il est largué au bout d'un certain temps.
C'est ça.
Et
voilà.
Il va revenir sur Terre comme le premier étage de du lanceur Falcon 9 de SpaceX.
Ouais, c'est ça, avec des grid fins, donc c'est le petit jargon là qu'on utilise.
Des grid fins,
enfin, des grillages, hein, comme. C'est plus efficace.
C'est des petites ailettes, hein.
Je suis pas aérodynamicien, mais c'est plus efficace, voilà, pour des classes de vitesse, voilà.
Ce lanceur, il va revenir sur Terre. Et pour qu'il revienne sur Terre, qu'il puisse s'orienter, qu'il commence pas à tourner sur lui-même, etc.
Il faut le piloter.
Des espèces de petites ailettes, hein. Comme une flèche a des petites ailettes à l'arrière. Donc pour.
Oui, c'est une fonction de pilotage, ce qu'on appelle, voilà. Et donc, d'abord qu'il se retourne. Qui freine, qui se repropulse, qui se retourne, et là les grid fins rentrent en action et la dernière système.
Donc ce sont des ailettes qui sortent, hein.
Voilà, qui se déploient et qui permettent de piloter, voilà, sur ce long deux axes.
Et ensuite il y a.
Et ensuite les pieds d'atterrissage.
Les pieds d'atterrissage qui vont se déployer.
Histoire de pouvoir être réutilisable, parce que c'est pas le tout d'être récupérable, il faut être réutilisable.
Ça.
Donc pour être réutilisable, faut déjà pas trop s'abîmer. Et atterrir pas trop mal pour pouvoir ensuite regarder est-ce que ça va et on décolle.
Alors vous avez pas dit quelle taille, parce qu'on dit des lanceurs légers, quoi, mini lanceurs, micro lanceurs, c'est
dans le lanceur léger, ça reste, on peut y mettre plein de choses, il peut y avoir micro, mini, petit.
Alors vous êtes micro et mini.
Voilà, on est micro et mini.
C'est quoi micro, performance 500 kilos, un satellite.
Ouais, on a une performance de 500 kilogrammes en réutilisable, en version récupérable. Et 1500 kg alors sur une orbite, hein, qu'il faut associer à une orbite, donc une orbite SSO, ce qu'on appelle Sun Synchronous Orbit à 500 km et 1500 kg en version consommable, c'est quand on a assez utilisé le premier étage et bien on peut se permettre de consommer, c'est-à-dire un peu à l'ancienne comme tous les autres lanceurs, le lanceur pour avoir plus de performance et donc adresser des charges utiles, donc des satellites qui sont plus gros et donc qui ont plus aussi plus de valeur.
Satellite de 500 kg à 1500 kg à une orbite basse, orbite moyenne.
Voilà, orbite basse mais assez énergétique malgré tout, on tire au nord, voilà, c'est ça.
Ouais. Magnifique. Alors, il y a plein de détails encore à dire, mais comment vous voyez-vous, Monsieur Bahut, une initiative comme celle-là, des startups qui se lancent. Alors, c'est une startup qui est adossée quand même à Ariane Group, hein. Donc, Ariane Group, c'est le groupe qui est chargé de produire les lanceurs Ariane, notamment. Donc, c'est pas n'importe qui, quand même.
Bah oui, c'est l'industriel principal en Europe pour fabriquer les fusées. Donc c'est celui qui fabrique les fusées Ariane 5 aujourd'hui qui décolle et puis plus tard Ariane 6 à partir de l'année prochaine. Et donc c'est une force effectivement d'être adossé à ce grand groupe, mais avec quand même le challenge pour Maya Space et pour les autres startups aussi. De réinventer un peu aussi les modes de pensée, les modes de conception du lanceur pour qu'il soit moins cher à concevoir et moins cher à produire ensuite. Donc voilà, il y a quand même un challenge et justement c'est la difficulté qu'ont tous les acteurs historiques dans le domaine des lanceurs, que ce soit d'ailleurs en Europe, mais pas que en Europe, aux États-Unis, on l'a vu aussi, il y a des acteurs historiques qui ont du mal à se renouveler, et donc c'est le challenge que va relever Maya Space, voilà.
Alors, moins cher, hein, ça vous l'avez dit, mais il n'y a pas que ça, il y a en plus l'idée que cette entreprise qui n'existait pas il y a un an doit lancer son premier lanceur Maya en 2025, c'est-à-dire dans 3 ans. Mais vous y croyez?
Bah oui, on y croit. Il faut y croire. Donc, il y a plein de défis à relever. Déjà, embaucher toutes les personnes qu'il faut pour faire toute la conception et les essais de ce véhicule. Ensuite, trouver de l'argent pour payer toutes ces personnes et le matériel qu'il va falloir fabriquer. Donc tout ça, c'est à faire parce que ça tombe pas du ciel.
Il y a des tours de table, etc. C'est ça pour financer. Léonard Pinault.
Oui, tout à fait.
Alors, une start-up, quoi.
Juste un petit commentaire. C'est, MySpace, c'est le nom d'entreprise. Le lanceur, pour l'instant, on l'appelle le lanceur de MySpace.
Voilà.
On n'a pas encore communiqué officiellement sur son nom. Et de toute façon, ne me demandez pas quel sera son nom. Il n'est pas décidé. Oui, donc bien sûr, c'est un des challenges les plus difficiles. Hein, c'est boucler le business model. Hein, donc c'est déjà trouver des financements pour faire le développement et ensuite faire en sorte que ça coûte pas trop cher et qu'on le vende au bon prix pour derrière boucler la boucle. Et c'est toute la difficulté de ces projets, hein, qu'ils soient français, européens ou étrangers, c'est qu'ils perdurent et qu'ils trouvent leur marché. Voilà, donc avec tous les bons paramètres financiers au-delà de la technique.
Alors, à côté du lanceur MayaSpace, enfin de MayaSpace, hein, qui est à gauche, j'en ai mis trois autres. Ça, ce sont donc les exemples de le lanceur Alpha de Firefly, c'est des Américains, je crois.
Oui, Américains, ensuite Allemands.
Isar Aerospace, c'est Allemand.
Bavarois.
Et Orbex, c'est
Orbex,
britannique. Hein.
Voilà, un peu plus petit en performance, Orbex, c'est britannique, exactement, en Écosse notamment. Mais je crois qu'ils sont implantés dans plusieurs endroits. Isar sont plutôt Allemands. Firefly, je ne sais pas vous dire aux États-Unis, mais il y en a tellement aux États-Unis et qui sont bien avancés en termes de financement et de technique. Mais c'est celui avec Electron qui avait démarré plus tôt, qui est plus faible performance, c'est celui qui a réussi son deuxième vol. Donc c'est celui qui est opérationnel.
Il y en a qui volent déjà là.
Alors dans les petits micro mini lanceurs, il y a Electron de Rocket Lab, donc le néo-zélandais un peu américain aussi. Et bon, il est limité en performance, il est vraiment micro lanceur. Que Firefly est plutôt catalogué micro mini, donc il adresse presque 10 fois plus de performance, peut-être 6 fois plus je crois de performance. En tout cas dans son ambition, voilà, mais les autres sont sur le pas de tir l'année prochaine ou dans 2 ans.
Alors, j'ai montré 3 projets, mais il y en a combien en réalité des projets de micro et mini lanceurs?
Mais il y en a plus d'une centaine dans le monde.
Plus d'une centaine dans le monde.
Plus d'une centaine, à différents degrés de maturité et de préparation. Mais il y en a beaucoup. Mais rien qu'en France, on en dénombre 6. 6 sociétés comme MayaSpace, dont MayaSpace, qui veulent adresser ce marché. Et en Europe, bon, j'ai pas fait le compte, mais il y en a une bonne vingtaine sur toute l'Europe. Donc, ça aussi, il y aura une grosse concurrence pour MayaSpace, c'est sûr.
Plus de 100 concurrents, Leonard Pinault.
On manipule pas 100 concurrents à terme, hein, parce que on n'imagine pas d'un point de vue marché, il y a beaucoup trop de lanceurs, hein, pour l'instant, par rapport au nombre de satellites, même si les projections montrent qu'il y aura beaucoup de satellites. Alors, majorité des petits satellites vont être lancés par les gros satellites, hein, donc c'est l'approche bus, hein, ce qu'on appelle le rideshare dans le jargon. Mais il y a quelques petits satellites, petites constellations qui auront besoin de ces lanceurs pour avoir un lancement vraiment dédié, ce qu'on appelle dédié, c'est-à-dire qui choisiront la date, l'orbite, qui seront maîtres de leur système de lancement. Et donc, stratégiquement, on imagine que dans ces 150, je ne sais pas combien, on peut dire 90-95% de ces projets n'iront pas au bout.
Sur les 150, 90 à 95% de ces projets n'iront pas au bout.
Oui, il n'y aura pas de marché pour autant d'acteurs. Donc en Europe, là je relais les grands analystes qu'on peut avoir aux agences ou les boîtes spécialisées, mais ils imaginent entre 1, 2, maximum 3 acteurs en Europe, 1 ou 2, peut-être 2 ou 3 aux États-Unis. Il y a aussi la Chine et l'Inde, donc voilà, ça va être un marché
compliqué. À la fin, ce sera une dizaine, quoi.
Ou 0, ou 1, on va dire MySpace.
Ou 1, MySpace, évidemment. Alors, on s'est intéressé aux mini et aux micro lanceurs, et vous voyez qu'il y a une espèce de floraison absolument incroyable dans ce domaine-là. On va y revenir évidemment, et peut-être qu'on peut parler avec vous, Monsieur Noir, d'un des mouvements importants, qui est le mouvement du caractère éco-responsable. On prend en compte, quand on fait le design d'un nouveau lanceur aujourd'hui, on prend en compte l'environnement.
Ah oui, l'environnement, donc c'est une donnée qu'on prend en compte depuis environ 5-6 ans, je dirais. Alors ça va en fait au travers du choix des ergols en fait principalement. Alors,
les ergols, faut rappeler, c'est le carburant,
oui, pardon,
hein,
carburant
je dirais.
Le mélange de carburant. Alors en fait, c'est pas que les carburants non plus. Bon, on a fait une analyse en fait du cycle de vie des lanceurs. Donc on s'est aperçu en fait qu'effectivement le carburant était le plus gros contributeur, mais il y a aussi les aspects réutilisation dont on a un peu parlé, qui ont un impact sur les données environnementales. Bon, il y a aussi tout ce qui est choix des matériaux, par exemple. Donc ça, c'est important. Donc on a des activités de R&T pour essayer de trouver des matériaux plus éco-responsables. Et bon, il y a une donnée importante quand même à prendre en compte en même temps que l'environnement, c'est le coût. On en a un peu parlé. Ça servirait à rien de faire un lanceur qui soit complètement éco-responsable si on n'arrivait pas du tout à le vendre. C'est un peu comme
si on disait, trop cher, quoi.
C'est comme si on disait qu'en fait, on pouvait s'autoriser à faire disparaître l'espèce humaine pour améliorer le bilan carbone, ça n'aurait pas de sens non plus. Donc si nous, on fait un lanceur...
Ce serait efficace du point de vue du bilan carbone, mais du point de vue de l'espèce humaine, ça poserait un léger problème.
Mais c'est pareil pour nous, les lanceurs. Si le lanceur, il est trop cher, il n'existera plus, donc il n'y aura plus de marché.
Alors, donc il y a un équilibre entre coût, environnement, la question de la performance aussi.
Il y a la performance aussi, et bon, c'est pas forcément facile parce que des énergies éco-responsables qui soient pas chères, il y en a pas beaucoup. Bon, on travaille sur le biométhane, on travaille sur l'hydrogène vert, on joue pas l'un contre l'autre, donc il y a plusieurs possibilités. Bon, le méthane aujourd'hui, il est...
Alors, il faut expliquer le méthane. Pourquoi vous nous parlez de méthane?
Et alors, c'est vrai qu'il faut expliquer.
Le méthane, c'est, on parlait des ergols, donc le carburant. Donc, normalement, un lanceur, ça fonctionne avec un carburant et un comburant. Le comburant, c'est de l'oxygène liquide. Et ensuite, on a un carburant. En général, c'est de l'hydrogène, par exemple, sur les lanceurs Ariane. Alors, mais là, maintenant, on laisserait tomber l'hydrogène pour passer au méthane. C'est bien ça?
Alors, bon, quand on parle du méthane, en fait, il faut remonter un peu à l'origine du problème. Dans les années 2015, en fait, toute l'industrie spatiale a été tirée par la baisse des coûts. Pourquoi? Avec l'arrivée d'Elon Musk et puis de SpaceX. Donc, l'Europe s'est interrogée parce que, comme je le disais, elle veut pas disparaître non plus. Donc, les analyses qu'on a fait à ce moment-là ont montré que le méthane permettait d'avoir des coûts un peu plus faibles, à la fois parce qu'on travaille à des températures qui sont un peu plus élevées. Donc ça facilite la mise en œuvre. En fait, ça contraint aussi moins le dimensionnement des composants des moteurs.
Alors, il faut expliquer quand même que quand on utilise donc les carburants comburants, donc c'est hydrogène plus oxygène. Quand on met l'hydrogène et l'oxygène ensemble, ça s'enflamme spontanément. Donc ça, c'est ce qui est à la base de ces lanceurs, de ces moteurs cryogéniques qu'on avait jusqu'ici. Et là, on est en train de changer l'hydrogène pour du méthane. Alors, le problème de l'hydrogène, c'est qu'il fallait, pour qu'il soit liquide et non pas gazeux, il fallait le refroidir à des températures extrêmement basses.
Alors oui, l'hydrogène, en fait, il est liquide à une température de 20 degrés Kelvin, ce qui fait en fait moins de 153 degrés Celsius.
Donc, quand on voit un lanceur Ariane et ce moteur extraordinairement chaud, en même temps, on a des réservoirs d'hydrogène qui sont à moins de 150 degrés.
Oui, et puis ça pose des problèmes parce qu'en fait, il faut qu'il reste liquide jusqu'au lancement. On remplit à peu près 4 heures avant. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme il y a une grosse différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, donc il y a des entrées thermiques importantes, donc ça chauffe en permanence. Donc comme ça chauffe, en fait, même si c'est bien isolé, ça gazéifie à l'intérieur. Et quand on gazéifie,
donc le liquide devient gazeux, une partie en
devient gazeux. Et donc il faut l'évacuer. Donc s'il est trop gazeux, parce que si on monte trop en pression, on risque de faire exploser les réservoirs. Donc on en élimine une partie, puis on re-remplit après avec des ergols plus froids, et ça se fait jusqu'au lancement. Donc ça complexifie un peu la mise en œuvre et le fait d'utiliser...
Donc ces petites fumées là qu'on voit sur le bord des lanceurs, quand on les voit sur le pas de tir en attendant le lancement, c'est en fait de l'hydrogène qui est en train d'être évacué.
Oui, c'est la condensation de l'air qui est autour des réservoirs, en fait, parce qu'on a des températures qui sont très froides, en fait. Et donc le méthane, ça permet donc à la fois de simplifier la mise en œuvre.
Donc on travaille plus à moins de 150. On travaille à quelle température là ?
Le méthane, c'est 111 degrés Kelvin, donc ça fait 273 moins 111, moins 163.
Moins 163 au lieu de moins 250. Ouais. On a gagné 100 degrés quoi.
Mais ça simplifie la mise en œuvre. Et puis au niveau des domaines de fonctionnement, ça sollicite moins les matériaux, notamment au niveau de la conception des moteurs et de tous les composants.
Donc oui, parce que les moteurs, ils vont recevoir, une partie des moteurs vont recevoir de l'hydrogène liquide à moins de 150 degrés. Et là, il faut qu'ils tiennent le choc de ce froid quand même.
Oui, puis en fait, le domaine est très large puisque bon, on peut être à moins de 150 en hydrogène, mais une fois qu'on a allumé le moteur, après, on a des températures qui sont très élevées au niveau des chambres de combustion de l'ordre de 3000 degrés cette fois-ci.
Wow.
Donc tout ça, en fait, ça contraint énormément le dimensionnement et puis la conception des moteurs. Et du coup, le fait effectivement de travailler avec du méthane, ça allège un peu les contraintes de ce point de vue-là. Alors la question d'origine, en fait, c'était pourquoi le méthane ?
Ouais, donc le méthane, on voit que ça simplifie les choses, mais c'est mieux du point de vue environnemental aussi ?
Alors oui, alors là, c'est une question. Je dirais, ça dépend comment est fabriqué le méthane, en fait.
Ah.
Mais c'est pareil, comment est fabriqué l'hydrogène ou comment est fabriqué le méthane ? Parce qu'on peut avoir de l'hydrogène vert, et on peut avoir donc un hydrogène qui est pas forcément très très écologique. C'est pareil pour le méthane. Quand on a su qu'on utiliserait le méthane en fait sur les lanceurs, on a commencé à regarder la façon dont on le produirait. Alors en métropole, donc il n'y a pas de.
Et là, vous êtes arrivé. Là, il y a une solution très innovante qui pourrait être mise en œuvre à Kourou sur le centre spatial guyanais dont on va parler avec vous.
Alors pour résumer, le méthane fossile, bon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout écologique.
Parce en métal fossile, on irait le chercher. Voilà.
Il faudra aller le chercher soit dans des ports méthaniers, donc dans les Caraïbes, soit en République dominicaine, soit à Trinidad et Tobago. Mais c'est surtout que c'est fabriqué à partir de, d'hydrocarbures, donc d'un point de vue écologique, c'est pas terrible. Et même pour les purées, c'est pas super. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a commencé à s'orienter vers le... Et en plus, il y a une autre donnée qui est liée à la conjoncture actuelle, qui est qu'on maîtrise pas du tout le coût parce qu'il est lié à la situation géopolitique que tout le monde connaît. Donc du coup, le méthane vert, en fait, le biométhane, c'est quelque chose qui en fait va nous permettre à la fois de développer notre propre réseau d'approvisionnement, qui sera pas dépendant en fait de toutes les contraintes géopolitiques, le gaz de Poutine, pour parler crûment. Donc on aura notre propre circuit d'approvisionnement, ce qui fait que on n'aura pas forcément à se poser la question de savoir ce que ça sera dans 4 ou 5 ans, parce qu'aujourd'hui personne ne peut dire ce que sera le coût du méthane et du gaz dans 5 ans. Et bon, ça, on y arrive relativement facilement, enfin relativement facilement. On sait qu'il y a des solutions technologiques pour fabriquer du biométhane qui marchent en Europe, pas forcément pour faire du biométhane, parce que le méthane, on l'utilise pas tant que ça, en dehors des fusées. Donc c'est effectivement le biométhane qui est fabriqué en général à partir d'intrants qui sont soit des déchets organiques, soit des résidus de canne à sucre en Guyane. En France, on utilise plutôt les déchets de maïs, mais en fait, en Guyane, il y a quand même un peu plus de canne à sucre que de maïs.
Donc à partir de débris végétaux, voilà, on pourrait produire du méthane, donc un biométhane, un méthane qui soit éco-responsable, hein, d'une certaine manière. Ça, c'est un projet qui existe au Centre Spatial Guyanais, à Kourou. Avant qu'on continue et que vous nous décriviez en quoi ça consiste, il y a Mehdi qui a un petit message pour vous.
Chez Maya Space, on fabrique des taxis. On bosse avec le CNES, avec Ariane aussi. On veut être les Uber de la basse atmosphère. On empile des étages entourés de grillages. Puis quand on a lancé nos petits satellites, on redescend tranquille mais sans aller trop vite. On est une start-up qui fabrique des lanceurs. Nous on est le ketchup, Ariane c'est le burger. On est Deliveroo, on livre dans l'espace. En partant de Kourou, être premier dans la place. Chez Maya Space, on fabrique des taxis. On vient de trouver le nom de notre beau produit, Maya Taxi.
Bravo, c'est bon. On a trouvé Maya Taxi, excellent. Bon, parfait. Ça vous va, Léonard Pinault ?
Ouais, c'est pas mal.
Alors, attention, parce qu'ensuite il prend
Uber moins, mais et voilà, bon, mais c'est vraiment bravo.
Enfin, attention, parce que si ça se trouve, il l'a déposé avant de venir ici. Il est dur en affaires, Mehdi.
Il a travaillé avant.
Il est dur en affaires. Alors, avant de me tourner vers vous, de prendre vos éventuelles questions, continuons là sur ce projet. On peut regarder page 7 de notre petit livret. Vous allez voir le projet Bifrost, page 7 de notre petit livret. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors, en haut à gauche, on a un exemple, mais c'est pas l'exemple... C'est un exemple en France, de production de méthane. Ça ressemblerait à ça,
beaucoup
quoi.
À ça, hein.
Mais c'est pas au Centre Spatial Guyanais.
Pas encore, mais en fait, ce qui nous intéressait, c'est que dans la technologie, il y a 500 ou 600 installations qui fonctionnent sur ce modèle-là en France. Alors pas, comme je le disais, pour faire du méthane, parce que le méthane, on n'en utilise pas tellement, mais plutôt pour injecter dans le réseau et puis pour verdir un peu le réseau.
Donc on fabrique du méthane toujours à partir de résidus végétaux, mais là, en l'occurrence, c'est du méthane qui est renvoyé dans le réseau de gaz, le gaz de ville, etc. Là, le méthane, on le conserverait effectivement pour...
En fait, ça coûte pas très cher, parce que on part de déchets végétaux, organiques ou industriels même. Et donc après, c'est la décomposition de la matière organique. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'apport d'énergie, ce qui permet de limiter les coûts. Ça, c'est un facteur toujours important. Donc le projet qu'on a là, en fait, il s'appelle Bifrost. Donc Bifrost, moi je savais pas ce que c'était, mais c'est ma fille qui a trouvé le nom. Donc c'est le dans la mythologie scandinave, en fait, ce qui fait le lien entre la terre et puis le ciel. Mais en fait, c'est un acronyme également qui veut dire biofuel for rocket operation in space transport. Donc ça collait assez bien. Alors donc l'idée, c'est justement de faire une installation qui servira pour Maya, bien sûr, mais au préalable pour donc le petit lanceur, enfin le démonstrateur Themis, qui est une étape intermédiaire entre les lanceurs qu'on a aujourd'hui et puis ceux qui utiliseront la réutilisation. Donc en fait, cette installation-là, on prévoit de la démarrer, je dirais, dans le courant de l'année prochaine. Donc elle fonctionnera.
Alors c'est une économie. La décision a été prise, elle est financée, etc. ou pas?
Le financement, on est en train d'y travailler. Mais bon, je dirais, il y a tellement d'arguments que on espère que ça aboutira positivement. Bon, on est plutôt optimiste quand même.
Monsieur Bahut, juste un mot. qui mettrait au pot, là, qui paierait pour...
En fait, c'est un projet,
projet
avec des financements, un peu de financement public et beaucoup de financement privé, comme tous les projets de biogaz, même en France ou en Europe. Donc, l'idée, c'est d'avoir une installation rentable qui puisse vendre son ergol de manière commerciale ensuite à tous les lanceurs qui seront opérés en Guyane. Donc, il va falloir quand même aider un petit peu au départ cette installation avec de l'argent public. Et donc, on est en discussion avec un certain nombre de financeurs publics pour avoir cette décision.
Ça peut être la préfecture, c'est qui, c'est quoi, c'est des banques publiques de.
C'est l'État qui donne un certain nombre de subventions au CNES et qui permet de financer ce type de projet.
Monsieur Noir, vous voulez continuer?
Où est-ce que j'en étais? Oui, alors l'installation, donc.
Alors, non, mais on l'a là, donc on voit des espèces de.
Vous avez
de dômes ou de cônes là blancs. Donc c'est là-dedans, je suppose, qu'a lieu
Là,
la fermentation.
En fait, là, c'est la méthanisation, enfin ce qu'on appelle la méthanisation. Effectivement, c'est la fermentation à partir des déchets organiques. Après cette étape-là, en fait, donc on produit plusieurs choses. En fait, on produit ce qu'on appelle donc le biométhane pur. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le digesta. On produit aussi du gaz carbonique.
Le digesta.
Alors, le digesta, en fait, c'est les déchets qui sont issus de la méthanisation. C'est quelque chose qui est, donc c'est un élément solide. Et c'est un gros intérêt parce que, en fait, on peut l'utiliser pour fertiliser l'agriculture. Donc, ça permet d'éviter d'utiliser trop d'engrais chimiques. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça participe aussi à une économie circulaire, en fait. De même que les intrants. Enfin, ce qu'on appelle les intrants, en fait, c'est tous les composés qui vont rentrer dans la méthanisation. Donc, comme je le disais, il y a des déchets verts, il y a donc les déchets de canne à sucre, il y a aussi les huiles alimentaires usagées, et c'est donc tout ça qui produit la méthanisation. Donc, l'objectif, en fait, c'est de construire l'installation pour 2025, je dirais. Donc, ça devrait être compatible avec nos objectifs normalement. Je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires.
Bon, ça va venir, vous inquiétez pas. Est-ce que vous voulez nous commenter un petit peu ce schéma-là, le schéma de la page 7? Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le faire.
C'est pas ma spécialisation, la méthanisation. C'est plutôt les lanceurs.
Hein. Bon, à mon avis, ici, c'est vous qui connaissez mieux le sujet. Hein.
Non, les deux cuves, en fait. Donc, la cuve la plus grosse, donc circulaire, en fait.
Donc, verte, c'est les deux cuves vertes, ouais.
Donc, c'est là où on met tous les intrants, donc tous les déchets dont je parlais. Donc, il suffit de les laisser à température ambiante et de les laisser décomposer, en fait. Il n'y a pas d'énergie.
La température ambiante à Kourou, c'est...
Ouais, enfin, quand je dis la température ambiante, c'est plutôt la température du corps humain, ce qui est normal, puisque c'est des déchets organiques, souvent. Donc, c'est 38 degrés, en fait. Mais ça, en fait, donc il n'y a pas d'énergie apportée, comme je le disais.
Après, on les laisse là, mais on met quand même un petit peu des bactéries ou quelque chose comme ça, non?
Les bactéries, oui, on met des bactéries parce qu'il y a aussi du lisier de porc, des choses comme ça qui interviennent. Donc ça vient des déchets organiques, en fait, les bactéries.
Et tout ça, ça baigne dans l'eau, plus ou moins, non?
On apporte un peu d'humidité, mais pas tant que ça.
D'accord.
Ensuite, on laisse maturer pendant quelques jours. Bon, après, de toute façon, le cycle, il se régénère au fur et à mesure. Après, une fois qu'on a ça, en fait, je suis désolé, j'arrive pas bien à lire ce qui est écrit. J'ai un peu la vue qui baisse.
Qu'est-ce qui est écrit là? On n'arrive plus à rien à lire. Ouais. Alors là, il y a écrit lagune digesta.
Oui, donc là, en fait, c'est là où on va récupérer le digesta. Hein. Donc, c'est le résultat.
Le rectangle vert, là.
Oui, le résultat de la méthanisation, en fait. Enfin, un des résultats, puisque c'est un déchet. Et après, donc les autres plateformes.
Pas facile à lire.
Là, je vois pas ce qu'il y a. Plateforme de stockage, voilà.
Donc en fait, stockage du digesta.
D'accord.
Ici, Michel nous dit stockage du digesta. Ouais.
Donc ici, donc effectivement, on va laisser le digesta, pareil, maturer. Enfin,
c'est à gauche là.
Le temps qu'il y a des gens, le temps qu'on puisse le fournir à des agriculteurs, par exemple. Plateforme. Alors après, je n'arrive pas bien à lire non plus. Plateforme culture. Ah oui, culture énergétique, non? Ouais, culture énergétique. En fait, la culture énergétique, c'est en fait des cultures qu'on fait pousser pour produire de l'énergie. Alors, il y a des conditions et des réglementations parce que si on fait des plantes en fait pour à la place de l'agriculture, enfin des plantes pour faire de l'énergie à la place de l'agriculture, c'est pas très écologique. Donc, de préférence, on choisit des plantes en fait qui impactent pas qui sont pas développables sur des terres agricoles classiques, donc qui impactent pas le foncier au niveau de l'agriculture. Et après, en dessous. Donc plateforme, réception, déchets. Oh,
d'accord, mais on voit bien l'idée. D'accord.
Et après, donc tout ça, alors je...
Ouais.
Alors, effectivement, c'est vrai que le schéma est un peu petit. Bon, enfin, toujours est-il qu'après, derrière, donc il y a en fait une plateforme d'épuration. Donc l'épuration, en fait, c'est ce qui va permettre d'éliminer toutes les impuretés qu'il y a dans le digestat. Donc là, en fait, on passe notamment dans des charbons, dans des filtres. Enfin, il y a tout un process. Ce qui fait qu'en fait, le méthane en sortie, il arrive en respectant les spécifications, en fait, les exigences qu'on a besoin pour un lanceur. Ça, c'est une étape importante. Hein. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est moins complexe avec du biométhane que ce qu'on avait analysé à partir de méthane fossile, parce que le méthane fossile, justement, il y a des impuretés. Il y a des impuretés, mais il y a des hydrocarbures, des saloperies, des gens, enfin, des choses qui s'appellent les siloxanes et qui sont pas sympathiques pour l'injection dans un moteur.
Alors, j'ai envie de me tourner vers vous, de voir si vous avez envie de discuter directement avec les intervenants, de leur poser vos questions. Ils sont là pour répondre. Hein. Alors, on a parlé que du micro, de mini lanceur. On est resté plutôt petit. On a parlé un peu d'éco-responsabilité. Mais il y a encore plein d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, hein. Notamment les méga lanceurs, les énormes lanceurs. Donc, les intervenants sont à vous.
Deux questions, enfin deux choses. La première, c'est puisque si c'est à Kourou, on est en Guyane et il y a des activités agricoles de canne à sucre, évidemment. J'ai d'ailleurs goûté du rhum de Guyane qui est pas mauvais du tout. Je vais pas donner la marque, mais bon. Et est-ce que ça peut se coupler avec justement la sortie d'une distillation, ce qui ne devient pas de l'alcool, etc., le rhum, deviendrait l'ingrédient pour la méthanisation. Et alors l'autre élément là, c'est plus technique, c'est quel est le par rapport au moteur à hydrogène ou à les autres carburants plus anciens, quelle est l'impulsion spécifique qu'on obtient avec du méthane ?
Méthane, si je me rappelle bien, c'est autour de 300.
300 quoi ?
300 secondes, pardon. Oui, par contre, effectivement, l'impulsion spécifique...
C'est l'ISP,
ça
c'est ça ?
Ça caractérise en fait la performance d'un ergol, oui, l'ISP. Donc en fait, ça s'exprime en secondes parce que c'est la durée pendant laquelle un moteur de 1 kg, enfin plutôt une masse d'un kilo d'ergol, permet d'avoir un newton de poussée en fait. Donc ça caractérise la performance de l'ergol, plus il est...
Donc c'est 300 secondes pour pousser avec un newton, un kilo.
En fait, ça se traduit, parce qu'il y a des lois physiques, ça se traduit directement après en ce qu'on appelle le delta V, c'est-à-dire l'incrément de vitesse.
Donc 300 pour le méthane et l'hydrogène, c'est
autour
mieux,
de 430.
C'est-à-dire c'est beaucoup mieux.
C'est-à-dire qu'une tonne d'hydrogène, pour être clair, ça va pousser plus longtemps qu'une tonne de méthane. Pour ce qui est de la Guyane, en fait, votre question sur la canne à sucre, alors c'est exactement ça, en fait, la canne à sucre, de toute façon, on récupère une partie pour faire le rhum, et après, derrière, il y a des déchets qu'on n'utilise pas. Et si on les laisse fermenter même dans la nature, il y a de la méthanisation, mais de la méthanisation parasite qui est pas super surtout. C'est comme les ensilages dans les campagnes en fait. Donc autant l'utiliser pour faire du méthane derrière.
C'est presque gratuit comme matériau du coup dans ce cas-là.
Bah après oui, c'est ce qui fait que le modèle économique est crédible.
Pas l'opération, mais la fourniture.
Pareil pour les huiles usagées, pour les déchets verts, les pelouses, les tontes, etc.
J'avais une petite question. Vous parliez du fait que vous pensiez effectivement que la très très grande majorité des acteurs ne survivront pas les premières années parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Moi, je vais même aller plus loin. Est-ce que vous pensez même qu'aujourd'hui la technologie est même assez mature pour qu'en fait le réutilisable soit réellement rentable, puisqu'on voit SpaceX qui écrase tout le monde, mais on ne sait même pas s'ils sont eux-mêmes réellement rentables à l'heure actuelle.
Monsieur Bahut.
Bah, est-ce que SpaceX est rentable? Et en tout cas, il continue ses activités et il les amplifie. Donc, quelque part, il arrive à avoir un modèle économique qui fonctionne.
La question, à mon avis, c'est est-ce que le fait que ce soit réutilisable, est-ce que ça, c'est rentable? Est-ce que ça leur coûte pas de l'argent?
Alors non, on a fait un certain nombre d'études économiques. Évidemment, il y a un investissement au départ pour développer les technologies qui permettent de faire cette réutilisation. On a parlé des pieds, des grid fins, etc. Le moteur aussi a des adaptations dédiées. Mais une fois que ça s'est fait, c'est assez facile de comprendre qu'on économise rapidement de l'argent en exploitation du lanceur, puisque c'est comme si on jetait notre voiture à chaque fois qu'on a fait un trajet et qu'il fallait en racheter une neuve. Bah, si on arrive à la réutiliser ne serait-ce qu'une fois, on économise la production de ce nouveau véhicule. Donc, le bilan économique, il est assez simple à faire finalement. évidemment, après, plus on réutilise et plus on va gagner d'argent par rapport à des véhicules consommables qu'on jette à chaque fois. Ça, c'est le premier avantage de la réutilisation. Et puis, le deuxième avantage qu'il faut pas négliger et que, d'ailleurs, dans le cas de SpaceX, il est vrai, on le voit bien qu'il est mis en œuvre. C'est que quand on veut faire beaucoup de lancements, comme par exemple déployer une constellation de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de satellites, eh ben si on veut pas avoir des usines de production qui tournent à plein pour produire des nouvelles fusées, une nouvelle fusée par semaine par exemple, eh ben on voit que la réutilisation permet de faire des cadences de lancement assez importante. Falcon en ce moment c'est à peu près un par semaine de lancement.
Un lancement par semaine,
ce qui est quand même inédit dans le monde des lancements. Et ça, ben il le fait grâce à la réutilisation. Il ne produit plus aucun nouvel étage de sa fusée Falcon 9. Il est en train de préparer la suivante, dont on va peut-être parler après. Donc il a produit une trentaine de fusées Falcon et Falcon 9, et il les réutilise pour ses lancements. Voilà.
Combien de fois est-ce que un même étage peut être premier étage peut être réutilisé comme ça chez SpaceX?
Alors ils l'ont fait plus d'une dizaine de fois, même peut-être même plus d'une vingtaine. Là, je parle sous le contrôle de Léonard, une quinzaine, voilà, 15.
Je crois que le record, c'est 15,
voilà,
dit monsieur.
Voilà, le record, c'est 15, très, voilà. Mais bon, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Au départ, on disait, est-ce qu'on peut réutiliser une fois? Bon, ben, manifestement, oui. Il y a des projets où on imagine qu'on peut réutiliser 100 fois. Les véhicules terrestres ou les avions nous montrent qu'on peut réutiliser des centaines, voire des milliers de fois. Donc,
mais à chaque fois, il faut tout vérifier, les micro-fissures, etc. C'est très compliqué.
Encore une fois, SpaceX a montré que pas tant que ça, finalement. Il faut un design un peu plus robuste. Il faut l'avoir réfléchi avant. Hein. Et une fois que ce design il est fait, qui tient les environnements pendant le vol, il n'y a pas de raison d'avoir tout vérifié, de changer un tas de pièces. Encore une fois, l'analogie avec la voiture. On ne change pas le moteur à chaque fois qu'on fait un nouveau trajet de voiture. Voilà. On va changer des joints de temps en temps, les pneus, bon, voilà, des pièces d'usure. Quoi. Donc les fusées, c'est pareil.
Lance, vas-y, lance. Mais désormais, tu devras être éthique. Car tu produis des tonnes de méthane. Pense à la France. Vite, allez plus vite. Être un champion, un peu comme Alain Prost, qui roulerait avec du gaz de maïs. Vol au Bifrost. Et tu verras, c'est marrant, les fusées made in France, on les sent. Parfumé au pop-corn et lancé comme des bicornes, la NASA trouve qu'on passe les bornes. Mais oui, bientôt nos fusées tout là-haut seront propulsées au Beaujolais nouveau. Surtout quand il a un goût de banane. Vol sans méthane, mais utilise le Beaujolais.
La rime Bifrost et Prost, je pense que vous ne l'aviez pas vu venir. Vous vouliez dire qu'un mot, Léonard Pinot?
Non, c'était juste pour dire, c'est vrai qu'on peut aussi rater le design. C'est vrai que la navette était partiellement réutilisable, mais elle coûtait très très cher à chaque relancement. Donc c'est pas, ça s'anticipe pendant le développement, il faut faire les bons choix. Et avant de réutiliser, donc voir si ça marche bien, si les pièces sont pas à changer, etc., il faut aussi atterrir au bon endroit. C'est toute la difficulté de l'aspect technique. Au-delà, voilà, d'aller chez le garagiste, il y a avant tout à arriver au bon endroit, en parfait état, quoi.
Alors, on parle du caractère réutilisable de vos lanceurs, notamment du lanceur Maya Taxi, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. On tire par exemple au nord, donc vous vous retrouvez au-dessus de l'océan Atlantique, hein, quand on tire de Kourou. Et alors, où est-ce qu'on atterrit?
Quelques centaines de kilomètres, un peu plus loin, sur une barge.
Sur une barge dans l'océan.
Voilà, après, on peut pousser un peu la difficulté et essayer de faire demi-tour. Donc voilà, changer de direction et revenir pas loin de là où on a décollé.
Donc revenir sur le centre spatial guyanais.
Voilà,
donc qui était, qui est très étendu, voilà, hein, c'est gigantesque.
Sur une autre zone d'atterrissage. Ouais.
Voilà, sur une zone d'atterrissage.
C'est ce que fait SpaceX. Il a les deux versions et puis pour son Starship, la baseline, c'est même il décolle dans l'endroit où il atterrit, l'endroit où il a décollé. Donc c'est parfait pour lui. Mais il faut être assez gros pour pouvoir faire ça. Hein. Plus on est gros, plus c'est facile de faire ça.
Alors on peut peut-être regarder justement le projet Callisto. On le voit en page 4, c'est justement un démonstrateur hein, qui va bientôt décoller. Alors parlez-nous-en, Monsieur Bahut, qu'est-ce que c'est que ce projet Callisto qui est là pour essayer de démontrer notre capacité justement à réutiliser des étages ?
Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on a lancé au CNES il y a 3 ans.
C'est un projet CNES.
Alors c'est un projet, oui, que le CNES a porté et a démarré dans un moment où en Europe les acteurs des lanceurs, que ce soit au niveau des agences et de certains industriels, étaient pas convaincus que la réutilisation des fusées serait économiquement rentable, un peu la question que monsieur posait tout à l'heure. Voilà, toutes ces questions étaient pas, ça faisait pas consensus. Il y avait vraiment des débats. Donc, on n'arrivait pas à décider d'un véritable projet de réutilisation pour préparer les futures générations de fusées. Donc, le CNES a, de ce point de vue-là, été précurseur et donc a proposé ce projet d'une démonstration à échelle réduite hein, finalement puisqu'il s'agit d'un engin d'une dizaine de mètres de haut qui va décoller depuis Kourou.
C'est réduit par rapport à un véritable
par rapport à une véritable fusée qui ouais. Elle fait 60 voire plus de mètres de haut. Donc c'est un engin qui va décoller en 2024, depuis Kourou, et qui va faire un profil de vol qui ressemble à celui d'un vrai étage de fusée. Donc voilà, c'est un projet qu'on a démarré avec deux autres agences spatiales, donc l'agence spatiale allemande et l'agence spatiale japonaise.
DLR et JAXA.
DLR et JAXA, voilà. On s'est partagé les frais de cette démonstration.
Alors décrivez-nous là les trois images qu'on a page 4. Par exemple, peut-être qu'on peut la celle du haut. Alors, on voit qu'on a un lanceur Callisto qui est parti.
On a un lanceur qui est une vingtaine de kilomètres d'altitude.
Donc, là, à mon avis, on a plus de 20 kilomètres là, non ?
Peut-être un peu plus, oui.
Ça simule un premier étage.
Donc il est juste
c'est un démonstrateur, hein, c'est pas
un démonstrateur. Ouais, ouais. Tout à fait. Il lance pas de satellite. Il va pas assez haut et assez vite pour ça. Et donc une fois qu'il est sorti de l'atmosphère, donc à 20 ou 30 kilomètres, il va faire une manœuvre de retournement puisque une fusée quand elle décolle pas verticalement en fait
elle décolle verticalement mais ensuite elle penche
et elle prend une direction qui est presque circulaire autour de la Terre.
C'est ce qu'on voit en haut finalement. Là on voit bien qu'on est
tout à fait, il est presque à plat par rapport à la surface
ouais.
Voilà, et donc Callisto va en fait revenir vers le pas de tir. Donc il doit faire un demi-tour. Et ce demi-tour, il va être fait grâce à des propulseurs. On voit une petite flamèche là qui sort sur le côté du.
On voit. Alors c'est pas une flamèche, c'est du gaz, hein.
C'est du gaz, voilà. C'est du gaz qui va faire pivoter l'engin et qui va lui permettre de revenir au moyen de ses moteurs. On va rallumer les moteurs et ça va lui permettre de revenir vers le pas de tir.
Alors c'est ce qu'on voit aussi dans l'image en bas à gauche. On voit qu'on est en train de qu'on décolle là, 100 secondes. Au bout de 100 secondes, on est à Mach 1,4. Et puis au bout de 140 secondes, il y a le tilt over et le boost back. Donc tilt over, c'est que je me retourne et boost back, c'est que là je redémarre mon moteur.
On redémarre le moteur pour revenir vers la zone d'atterrissage, la zone de lancement. Et on atterrit assez proche de la zone de lancement.
Et donc on voit à Mach 1,5, là on voit qu'effectivement le Callisto s'est effectivement retourné. Et ce sont les mêmes moteurs qui permettent d'une part de décoller et qui permettent aussi de réatterrir en souplesse, c'est ça ?
C'est le même moteur, effectivement, qui permet de revenir et ensuite de se rallumer quand on re-rentre dans les couches de l'atmosphère, qui permet de freiner, puisqu'il est à très haute vitesse, comme vous avez dit, plus que la vitesse du son. Et donc, il va freiner et atterrir et se poser en douceur à vitesse quasi nulle.
Un moteur réallumable, un moteur fusée réallumable, ça va pas de soi, hein. Alors, on n'a pas toujours eu, nous, des moteurs réallumables en Europe.
Tout à fait. Et donc, effectivement, c'est lié principalement aux fusées réutilisables. Alors, pas tout à fait, parce que, en fait, pour les étages, ce qu'on appelle les étages supérieurs, donc le deuxième étage du lanceur, on a déjà eu dans le passé des moteurs rallumables, parce que les trajectoires, pour optimiser la trajectoire, il fallait avoir deux périodes de boost pour certaines missions.
Deux périodes de boost, deux moments où on poussait. Et donc, l'image de droite, c'est une simulation, on dirait vraiment du vrai, hein, mais je pense que c'est une simulation. Enfin, c'est, simulation c'est 3D, simulation. Je veux dire. Hein.
Oui, tout à fait, c'est une simulation.
Parce que ça n'a pas encore été tiré.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on
voit en haut, on voit les petites ailettes, hein, les grids fines dont vous parliez. Non ? Oui, c'est ça.
Oui. Ah oui, à droite, c'est une photo du Falcon.
Ah, c'est une photo de Falcon. Alors, excusez-moi. Donc, c'était une photo réelle de Falcon.
C'est une photo réelle.
D'accord.
De Falcon.
Moi, j'ai, d'accord.
Callisto va ressembler à ça.
Va ressembler à ça.
Au moment où il atterrit.
Parfait. Voilà le côté réutilisable. Je viens jusqu'à vous, hein. Si vous avez envie de discuter directement avec les intervenants, n'hésitez pas.
Votre fusée va envoyer quel type de satellite ? C'est des petits satellites de télécommunication ? C'est quoi ? C'est des micro-satellites ? C'est...
Alors, micro-lanceur, mini-lanceur. Donc, c'est micro-mini-lanceur à plusieurs différents marchés.
500 à 1500 kilos.
Voilà. Après, un satellite, c'est un client qui est caractérisé plus que la masse, un peu plus que la masse de son satellite ou de ses satellites. Donc, est-ce qu'il adresse un marché d'observation de la Terre, de télécommunications, etc. Même un scientifique, des marchés institutionnels, hein, scientifiques aussi, on adresse vraiment toute une diversité de marchés. Par contre, voilà, on est bridé par notre performance, on n'adressera pas les moyens et gros satellites.
Combien ça coûtera un lancement ?
Donc là, la difficulté de l'affoisonnement de projets fait que le positionnement économique, on est dans l'ultra-compétition. Et en fait, la concurrence de ces mini, micro, mini lanceurs, c'est avant tout les gros lanceurs qui lancent en grappe, hein, en bus, si je file la métaphore.
Et donc c'est les petits satellites qui sont votre cible.
Voilà.
Donc, ils peuvent avoir intérêt à être lancés avec plein d'autres
en même
satellites
temps.
Sur un gros lanceur. Ouais. Et là, c'est là où ça sera moins cher.
Ils payent moins cher. Voilà. Donc après, ils peuvent avoir l'intérêt de se dire, bon, je paye plus cher. Comme nous, on veut prendre un taxi parfois.
Plutôt que le bus.
Plutôt qu'un bus, bon, ça peut arriver. Et donc malgré tout, le taxi, il faut pas qu'il soit trop cher. Donc les prix affichés par les concurrents dans cette gamme-là varient entre 10 et 20 kilo-euros, kilo-dollars par kilogramme envoyé sur l'orbite de comprend en référence.
Donc 1 kilo, ce serait autour de 15 000, 20 000 euros, hein, 1 kilo en orbite, 1 kilo de charge utile, 1 kilo de satellite. Mais vous me disiez qu'un Falcon, typiquement, ça pouvait descendre à 5 000. Voilà.
C'est 5 000. Ça, c'est vraiment très, très difficile d'atteindre ce prix au kilo par un petit, un gros, un micro mini. Plus on est petit, plus on arrive à un plafond de verre, hein, sur des éléments. Par exemple, l'avionique, hein, c'est des instruments électroniques très, très, très chers. Et donc, plus on est petit, au bout d'un moment, c'est pratiquement la même électronique qu'on a sur un petit ou sur un gros lanceur. Et donc, on arrive à des coûts de lancement totaux en valeur absolue, qui sont vraiment hauts relativement à la performance. Donc classiquement, plus on est gros, plus on a un coût au kilo qui diminue. Hein. C'est une équation.
Alors, qu'est-ce qui fait que moi, qui ai un petit satellite que je voudrais envoyer dans l'espace, qu'est-ce qui fait que j'aurais envie de prendre un taxi qui me coûtera 4 fois plus cher qu'un autobus ?
Alors, on a plusieurs raisons, ce qu'on appelle des critères de choix, hein, mais c'est vrai pour tout type d'activité. Hein, quand on fait n'importe quel achat, on a des critères en tête. Des fois, c'est difficile, hein, le prix... la provenance, quel matériau, est-ce qu'il va répondre à tel usage? Ben, on a pareil dans le système de lancement. Souvent, les grands critères qu'on annonce sont les coûts, la performance. Là aussi, la place qu'on a dans la coiffe. Hein, la coiffe, c'est la partie haute de la fusée. Donc, on a un certain diamètre, certaines hauteurs. Si le satellite est trop gros ou trop haut, il peut ne pas rentrer. Donc, il permet de dire, bon, ben, je peux rentrer sur ce lanceur, pas ce lanceur. On peut avoir aussi une recherche d'ultra-fiabilité. On peut avoir aussi des futurs critères, on parle de éco-responsabilité, des lanceurs qui sont mieux positionnés d'un point de vue impact écologique, peut-être à l'avenir ça va être un critère. En tout cas c'est ce qu'on souhaite pour MySpace, tous les lanceurs ne sont pas éco-responsables, c'est la difficulté hein, de maintenant, en tout cas c'est ce qu'on essaye avec quelques-uns aussi de nos concurrents, mais on est plutôt une petite frange. Que ce soit un critère qu'on pourra mettre en avant et qui sera différenciant par rapport à des lanceurs beaucoup plus polluants. Voilà, c'est un peu être un critère supplémentaire. J'en ai oublié d'autres. Hein.
Peut-être si je peux juste rajouter effectivement le timing de lancement, parce que quand on est lancé sur un gros lanceur comme Falcon avec plein d'autres charges utiles, ben il faut attendre que le dernier satellite soit prêt pour que la fusée puisse partir. Et donc, celui qui est prêt avant, il attend le dernier satellite. Donc, l'avantage d'être seul passager sur un micro lanceur, quand le satellite est prêt, il part tout de suite. Et le temps aujourd'hui, c'est de l'argent. Donc, dans les communications, dans tout le marché commercial, c'est important de respecter une date de lancement. C'est même de plus en plus important.
Alors, Monsieur Noir, vous êtes spécialiste de ces sujets d'environnement. Est-ce que cette attention que vous portez à l'environnement, ça correspond à quoi ? Est-ce que c'est une manière de... Est-ce que c'est un luxe qu'on se paye ? Ou est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Qui, finalement, a besoin que ce soit éco-responsable ?
Bon, je dirais tout le monde. Maintenant, est-ce que les lanceurs qu'on lance aujourd'hui, ils impactent fortement l'environnement ? Je n'irai pas forcément jusque-là, hein. L'impact du spatial sur l'environnement, c'est beaucoup moins que le trafic aérien, par exemple. Bah, tout simplement parce qu'on lance au maximum une dizaine de lanceurs par an. On lance une dizaine de lanceurs par an, alors que des avions, bon, il y en a qui fonctionnent tous les jours, ça c'est facile à calculer. Maintenant, ça va plus loin, en fait, parce qu'il y a pas que, je dirais, il faut pas voir que la mission, il y a la façon aussi dont on les fabrique. Comme je le disais, tout ce qui est propergol, tout ce qui est ergol à base, d'hydrogène, pour l'instant, c'est la façon dont ils sont fabriqués qui pose problème. Il n'y a pas que ça non plus, parce qu'en fait, il y a aussi le centre spatial guyanais. La Guyane, c'est quand même un enjeu territorial assez important pour la France. Et on pourrait pas, en fait, se permettre de lancer des lanceurs au méthane fossile, avec d'une part, donc, des impacts à la fois sur les ressources fossiles, sur la consommation d'eau, sur tout ce qui est donc justement impact carbone. Donc du coup, c'est vrai que c'est un des objectifs qui fait partie de la politique du CNES. Donc il y a l'environnement aujourd'hui. Il y a pas que ça non plus. Il y a aussi le fait que pour pouvoir lancer tous ces lanceurs-là, il y a un centre de lancement, il y a une base. Donc elle fait vivre beaucoup de gens, consomme beaucoup d'énergie, parce que la Guyane, c'est quand même pas un pays où on peut dire qu'il fait pas très chaud. Donc il y a par exemple une énorme consommation pour tout ce qui est régulation de la température. Et ça aujourd'hui, c'était fait jusqu'à récemment là par des groupes électrogènes. Donc tout ça, on est obligé de le remplacer par des choses qui sont un peu plus écologiques. Donc il y a notamment des centrales de biomasse qui sont prévues. Il y a un programme de panneaux photovoltaïques. Donc même si tout ça pour dire qu'en fait, même si donc les lanceurs tels qu'ils existent aujourd'hui ne génèrent pas énormément de pollution, par contre tout l'environnement qui est à côté, et ça commence pas non plus uniquement en Guyane, il y a aussi donc ce qu'on fait quand on fabrique donc tous les éléments de lanceurs en Europe. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut optimiser. Donc c'est un enjeu qui est important, parce que bon, si on prend l'exemple du CSG, le fait de faire vivre à peu près 1500 personnes avec une température régulée jusqu'à aujourd'hui, par contre, c'était un impact environnemental assez fort vis-à-vis de la Guyane.
Juste un tout petit commentaire par rapport à cette croyance. C'est encore en discussion, mais l'impact relativement faible, il est vrai avec une il était vrai quand on n'adressait pas forcément tout le périmètre. En tout cas, nous, on commence à sentir. Il y a beaucoup de chercheurs qui commencent à dire que c'est pas forcément vrai, que ce soit juste une fraction de l'aérien, parce qu'il y a la difficulté, il y a de plus en plus de données scientifiques qui arrivent, mais il y a un gros champ d'investigation vis-à-vis de toutes les émissions en haute atmosphère. Et en fait, on peut se rendre compte que finalement, c'est le même ordre de grandeur. Donc il y a un débat, il faut que collectivement, les industriels, les agences et surtout les centres de recherche investissent massivement dans la recherche liée à l'impact des lanceurs, Parce qu'en fait, on peut se rendre compte que cette croyance que l'on a, que les lanceurs sont très peu impactants, bah finalement peut être fausse. Donc là, on est, en tout cas, Maya, nous, on pressent qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça. Et notamment, c'est le choix de l'ergol qui compte. Donc le choix du biométhane, nous, en plein dans le choix qu'a adressé le CNES depuis longtemps sur les études avant-projet et le choix d'investir sur Bifrost. Pour nous, c'est quelque chose qu'on veut suivre absolument et être client. Donc on soutient à fond le CNES sur cette stratégie-là. Aussi parce qu'il y a un intérêt à que ce choix d'ergol limite les particules qui seraient néfastes à très haute atmosphère. Et ça, c'est encore très peu connu, malheureusement. Parce que c'est le seul système de technologie qui traverse l'atmosphère. Donc les impacts au-dessus de la troposphère, je sais plus comment elle s'appelle, la troposphère. Troposphère, ouais. Ouais, au-dessus de 10 km, entre 10 et 40. C'est un impact très très peu connu et qui peut avoir qui peuvent être assez violents d'un point de vue climatique. Donc voilà, à méditer pour l'avenir.
Oui, en fait, je vais peut-être rajouter un petit point. J'ai été un peu schématique en disant que, en fait, ça n'avait pas du tout d'impact. On peut pas dire que ça n'avait pas du tout d'impact. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les aspects traditionnels de l'analyse du cycle de vie. Il n'y a pas que les émissions carbone. Il y a aussi, comme le dit Léonard, en fait, tout ce qui impacte donc l'atmosphère. Et en particulier la couche d'ozone. Et on sait que quand on utilise des propulseurs à poudre, par exemple, bon, on produit de l'acide chlorhydrique ou des particules d'alumine. Et ça, on sait que c'est pas très bon pour la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, c'est quand même quelque chose d'important.
Et alors, tant que le nombre de lancements était relativement faible, ça allait peut-être encore. Mais enfin là, j'ai l'impression que le nombre de lancements va aller croissant.
Et c'est ce qui fait que, pour le CNES, le futur des lanceurs, c'est des lanceurs à propulsion liquide, alors que ce soit hydrogène, méthane, voilà.
Donc moins de poudre, c'est ça ?
Voilà, et pas à poudre, parce que les propulseurs à poudre, ça, on sait que c'est quand même très polluant. Pascal, t'as dit effectivement des rejets dans l'atmosphère. Et donc, il faut éviter ça pour le futur.
Je lance des trucs qui doivent revenir. Je lance les boomerangs de l'avenir. Faut être barge pour développer ces systèmes. Faut pas viser trop large où sort les chrysanthèmes. Le risque de voir revenir une fusée, c'est de se la prendre sur le nez. La vie démonstrateur de fusée, c'est le métier le plus risqué. Je me demande si j'ai bien fait de quitter le rayon charcuterie d'Intermarché. À l'époque, quand on avait un retour, on faisait un bon d'achat en saucisse de Strasbourg. Le hic, quand tu travailles pour le CNES et que tu te gourres, ben c'est le chèque. Je suis le seul en France, je suis le dernier démonstrateur de fusée.
Bonjour. J'avais une question concernant MayaSpace, enfin pour le lanceur de Maya. Vous avez prévu de faire du lancement aussi en rideshare dessus et vous visez quoi comme type de déployeur principalement type de déployeur de prévu en fait parce que je suppose que c'est principalement ça ou alors des satellites qui auront des adaptateurs pas plus grands qu'un PAS 610 quelque chose comme ça. Et puis j'en profite, j'ai une deuxième question. Pour Callisto, il y a un beau schéma pour dire ça se repose sur Terre. C'est prévu pour se reposer au sol ou ça a aussi prévu pour retourner sur une barge façon SpaceX par exemple. Et c'est la question troll la 3. Bifrost. La production elle est de combien en litres a prévu estimé.
Alors on commence par Bifrost.
Bon, faut que je fasse un petit calcul. La seule chose que je peux te dire, c'est ce que ça donne en tonnes. C'est 800 tonnes par an à peu près, ce qui doit correspondre à une centaine de normolitres heure. Donc après, faut faire le calcul en multipliant par 24 par le nombre de mois.
800 tonnes, jours. C'est bien 800 tonnes.
Hein, voilà, 800 c'est... tonnes, donc ouais, donc c'est ça. C'est à peu près 100 normolitres heure, un peu plus peut-être. C'est en introduisant la masse volumique du méthane, en fait. Donc, faut faire le calcul. Après, j'ai pas le chiffre en tête.
Alors, Léonard Pinault, la première question.
La deuxième question.
Alors,
sur Callisto. Oui, Callisto pourrait se reposer sur une barge, mais c'est juste que dans le projet Callisto, on n'a pas les moyens de s'acheter une barge, donc on revient sur Terre. Mais c'est le même type de démonstration.
ça posera pas de problème de se reposer sur une barge, non. Monsieur Bahut est confiant.
Alors, question très, très technique. Donc là, si je continue l'explication, en fait, la question, c'est ride share. Donc, je rappelle pour
ride
tout le monde.
Share.
Ouais, c'est partager un lancement avec d'autres. Donc, sous-entendu, qu'il y a des satellites l'un au-dessus de l'autre. C'est le lancement le ride share le plus connu dans le monde Ariane. C'est le lancement double.
Ce qu'on a sur Ariane 5, beaucoup.
Ariane 5, voilà, et Ariane 64 pour la prochaine. Et sinon, il y a ride share, c'est toute une grappe. Et ce qui est le plus connu dernièrement dans ce qui se passe dans le ride share le plus impressionnant, c'est ce que fait SpaceX avec ses satellites Starlink qui stack, hein. Il a 60 satellites par lancement.
60 satellites par lancement. Hein.
Ouais, voilà. Donc il a même adapté la forme du satellite parce qu'il a complètement verticalisé la production de ses satellites avec son lancement, donc pour optimiser et réduire le coût global de chaque satellite à lancer, donc à la fin du débit qui va vendre à ceux qui veulent bien acheter son service. Alors chez MySpace, du coup, comme on est plutôt un micro mini lanceur, c'est plus compliqué vu qu'on a un coût au kilo plus élevé qu'un gros lanceur. Donc voilà, c'est assez récent la création de Maya, donc toute la proposition de valeur et les services est à construire. Je suis pas du tout dans cette équipe là, donc je pourrais pas répondre à leur place.
Mais vous imaginez effectivement faire des lancements
techniquement,
multiples.
C'est possible techniquement. Après, c'est un choix d'entreprise de vouloir l'adresser ou pas.
Ça présente une forme de complexité quand même.
Voilà, c'est ça. Il faut avoir une structure qui permet de lancer plusieurs satellites. Il faut qu'ensuite le service soit attractif, c'est-à-dire que celui qui choisit l'orbite et la date, voilà, il peut avoir un prix un peu plus élevé, mais en même temps, on lui dit qu'il a un petit copain qui peut le mettre en retard, donc il faudra être attractif. C'est vraiment la stratégie d'Ariane 5 et d'Ariane 64. De ce que je connais d'Ariane 6.
64, c'est-à-dire Ariane 6,
voilà,
version
Ariane 6,
4.
En version 4, un peu boosté, même 6.62. Enfin, je parle là vraiment sans savoir sur Ariane 6. Donc sur Maya, la question se posera, mais en tout cas, on privilégie le lancement plutôt dédié, comme tout lanceur micro, mini lanceur.
C'est faire de la copie d'électrons, dit monsieur. C'est pas très gentil, ça.
La copie.
Même business pas... plan.
Electron, il a 150 kilos de performance. Donc nous, on est plutôt entre 500 et 1500.
150 kilos?
150, voilà.
Ah oui.
Donc nous on est entre 500 et 1500.
500 1500.
Voilà. Et mais le terme copie, moi c'est pas un tabou, hein. Bien sûr qu'on copie, on regarde ce qui se passe. Quand il y a quelqu'un qui démontre un standard, c'est que c'est inspirant. Après, on fera des choix qui seront propres à notre écosystème. Donc puis même il y a des lancements dédiés sur Ariane. Donc les gros lanceurs font aussi des lancements dédiés. Il y a pas que du rideshare dans les gros lanceurs.
Bonsoir, merci pour cette conférence. J'ai une petite question. On a l'impression, en vous écoutant, qu'on peut opposer les futurs petits lanceurs aux vieux gros lanceurs. Quid des gros lanceurs réutilisables du futur ?
Bah oui, en fait, ils jouent pas dans la même catégorie, donc on peut pas les opposer parce qu'ils servent pas le même marché entre les petits satellites avec des lancements type taxi et puis des énormes satellites ou des grosses infrastructures comme la station lunaire. Il y a un visuel de la Lunar Gateway par exemple, on voit que c'est des énormes infrastructures. Donc ça nécessite des énormes lanceurs. Par contre, effectivement, il y a des gros lanceurs qui se préparent, y compris dans le dans le futur. C'est le futur n'est pas que des petits lanceurs, et il y en a même des méga, puisque on sait que les Américains, SpaceX et Blue Origin préparent des fusées qui seront capables d'emmener 50 ou 100 tonnes d'un seul coup en orbite, tout en étant réutilisables. Donc avec vraiment un modèle d'affaires encore une fois qui pourrait révolutionner le marché des lancements.
Bien sûr,
monsieur. Je peux juste rajouter une remarque. En fait, dans les gros lanceurs, il y a effectivement donc SpaceX avec la version Starship. Donc la version Starship, en fait, l'objectif de performance, si je me rappelle bien, c'est 100 ou 150 tonnes en orbite basse, ce qui est énorme, et 63 kilos en orbite géostationnaire. C'est-à-dire qu'avec un lanceur comme ça, on doit pouvoir aller sur la Lune. Après, il y a celui de Bezos qui doit être donc le lanceur Blue Origin, je suis en train de me mélanger. Donc il y a Blue Origin, effectivement, qui est basé sur le lanceur, donc le New Glenn,
Donc là, on est à peu près à 13 tonnes. C'est un peu plus qu'Ariane 5, en fait. On est autour de 13 tonnes en orbite géostationnaire.
Alors, on peut regarder la...
Et une cinquantaine de tonnes en orbite.
Regardons la page qui s'appelle lanceur super lourd. Donc, c'est vers la fin. Lanceur super lourd. Donc, on a à gauche le SLS, le Space Launch System de la NASA. Au centre, le New Glenn de Blue Origin. Et à droite, le Starship. Et là, c'est une photo. Hein. Le Starship, c'est une vraie image. Et le SLS aussi, hein, il a été tiré là tout récemment. Donc ça, ce sont des lanceurs, des méga lanceurs. C'est comme ça que vous les appelleriez, Monsieur Bahut ?
Comme ça qu'on les appelle, oui, effectivement, dans notre jargon, parce que c'est des lanceurs qui, au décollage, font plus de 2000 tonnes une fois plein d'ergol avant le décollage, là où une Ariane 5 ne fait que 1000 tonnes. Enfin, aux
alentours. C'est deux fois plus gros, si je puis dire, qu'une Ariane 5.
Au moins deux fois plus, oui.
Et c'est comparable à la Saturn V qui a envoyé des hommes sur la Lune. Hein.
Bah, tout à fait. Le SLS est du même gabarit qu'une fusée Saturn V, effectivement, de l'époque des années 60.
Juste un petit commentaire par rapport...
Vous les regardez avec envie, ces gros-là, Léonard Pinault
Oh là là, oula, non, je reste concentré sur mon lanceur.
Vous avez déjà assez à faire avec Maya.
Non, mais par contre, ce qu'on peut dire, si je me mets dans la peau d'Ariane Group qui a créé cette start-up, cette filiale Maya Space, c'est aussi pour servir les gros lanceurs, donc c'est générer les briques technologiques. Donc il y a des liens entre les mini et lanceurs, c'est la première étape plus facile d'accès. Donc tout en adressant un marché, on souhaite tester le lanceur, le moteur Prometheus, embarquer du biométhane, donc tester une nouvelle filière d'ergol, apprendre sur la réutilisation, être le plus éco-responsable. Donc on cherche à éco-concevoir, nous, notre lanceur et prendre en compte tous les aspects. Et tout ça, ça va être réutilisé si on voudra lancer un lanceur moyen, lourd ou super lourd après post-Ariane 6.
Alors, monsieur Bahut, quand vous voyez ces lanceurs méga lourds, là, deux fois plus gros que les Ariane 5, ça vous inspire quoi ? Et surtout, comment ça se fait qu'on ait d'un seul coup trois Saturn V qui arrivent sur le marché ? Il y aura de la place pour tout le monde, là aussi ? Michel à ma droite a dit non.
Ça reste à voir, effectivement, mais la réalité, c'est quand même qu'il y a une nouvelle course à la Lune, aujourd'hui, entre les États-Unis d'un côté et les Chinois de l'autre.
Que des Américains, là. Hein.
Là, c'est que des Américains, mais les Chinois préparent aussi des méga-lanceurs. Fabriquer une station spatiale autour de la Lune comme les Américains le prévoient, ça va nécessiter des tonnes ou des dizaines de tonnes à envoyer. Et donc, pour ça, il faut des gros lanceurs. Donc, d'où ces initiatives, finalement, y compris privées. Le New Glenn et Starship, c'est en partie privé. Enfin, c'est des financements, c'est pas que du financement de la NASA. Voilà, qui vont essayer de capter ce marché. Donc ça, c'est le premier marché. Et puis le deuxième marché, c'est les méga constellations, où on voit que SpaceX déploie sa méga constellation Starlink.
Donc Starlink, c'est ce qu'on a vu évidemment avec l'Ukraine, hein, c'est cette constellation de satellites qui tourne autour de la Terre en permanence et qui offre des possibilité de télécommunication, hein, avec des satellites en orbite basse extrêmement nombreux, et on en a toujours en visibilité au-dessus de soi.
C'est ça. Où qu'on se trouve sur la Terre, on peut être en visibilité d'au moins deux ou trois satellites Starlink pour faire des échanges de télécommunication. Mais Blue Origin prépare aussi sa méga constellation qui s'appelle Kuiper. Qui va être déployé dans les années qui viennent, avec là aussi des milliers de satellites. Et l'Europe va également a un projet de méga constellation de souveraineté européenne, puisque on s'aperçoit maintenant que effectivement maîtriser les télécommunications par satellite. Alors, on les maîtrise un petit peu parce qu'avec les orbites géostationnaires, on a déjà pas mal de satellites de télécommunication. Mais le fait d'avoir une constellation permet notamment dans le domaine de la défense, on le voit effectivement dans le cas de l'Ukraine, permet d'autres potentialités. Et donc l'Europe va se placer sur ces méga constellations également.
méga constellation européenne. Elle s'appelle Iris 2 ou Iris au carré, je sais pas comment. Iris carré, voilà, c'est ça. Iris carré. Et donc, elle a été lancée, si je puis dire, enfin, politiquement, je dirais, il y a juste un mois. Ils veulent que ce soit fonctionnel, enfin, que ça commence à entrer en fonction en 2024, c'est-à-dire dans deux ans. Ils veulent que 30% du projet soit assuré par des startups et des PME. Et ça va coûter 6 milliards d'euros. Je trouve que, je suis étonné par le fait que les timings, si je puis dire, se sont incroyablement concentrés. Un Ariane 5, il a fallu 10 ans pour le concevoir, le lancer. Et puis là, on est avec un Maya, on se dit en 3 ans, 4 ans, allez, c'est parti, on va lancer quelque chose. Là, on est prêt à faire une constellation qui commence à être fonctionnelle dans 2 ans. Comment est-ce qu'on explique cette accélération, Monsieur Bahut? C'est qu'on utilise des choses qu'on sait déjà faire, mais la question, c'est juste la question du financement.
Il faut mettre effectivement le financement qui va avec. Faut avoir aussi un tissu industriel qui soit capable de développer suffisamment rapidement toutes ces technologies et ces matériels. Je pense qu'il y a une forme d'impatience aussi aujourd'hui. Où on veut avoir tout le plus vite possible, même si après, la réalité fait que dans certains cas, on va être un petit peu en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, on verra pour les constellations, les futurs lanceurs et Maya, on verra quel est le vrai calendrier. Mais effectivement, on veut aller plus vite que dans le passé, ça c'est sûr. Ouais.
On a un problème. Quand on fait un rideshare, c'est de trouver les bons colocataires. Nous, chez MyaSpace, on a une seule envie, c'est de devenir le nouveau Airbnb, la nouvelle plateforme de partage de l'espace. S'appellera pas Maya Taxi, mais Maya HLM, nous on trouve ça joli. Si t'as pas les moyens, t'auras qu'un rez-de-chaussée. Si t'es un peu plus riche, deuxième par l'escalier. Si t'es un connaisseur, sixième avec ascenseur. Si t'es pété de thunes, le loft vu sur la lune. On est le futur de la crème chez Maya HLM.
Oh. Ça va, Léonard Pinault
Ouais, alors du coup,
vous êtes à la fête, là.
C'est pas sûr, mais ouais, c'est vraiment très bien, bravo.
Les propositions, là, ça n'arrête pas. Voilà, ça. C'est pour vous.
Super.
Oui, bonsoir. J'ai une question sur le financement de l'innovation dans le spatial, justement. Vous avez évoqué au début qu'il n'y avait pas forcément la place pour tout le monde sur le marché, pour toutes les startups. Comment est-ce qu'on fait attention dans ces cas-là de ne pas diluer les financements et qu'il y ait vraiment un retour sur ces financements et qu'on ne soit pas simplement en train d'encourager plein de petites propositions dans leur coin? Comment est-ce qu'on rassemble un petit peu tout ça?
Ils se regardent. Qui va répondre? Le plus haut gradé, c'est Monsieur Bahut, là. C'est pour vous, là, non?
Question piège. Oui, effectivement, faut pas. Enfin, les financements sont pas illimités, donc il faut pas trop se disperser. Il faut essayer de se concentrer sur ce qu'on pense le plus prometteur pour l'avenir et aussi sur les quand on veut aider des startups, puisque c'est aussi le rôle du CNES finalement d'aider l'écosystème industriel et les nouveaux acteurs à émerger. On les aide par l'expertise qu'on peut leur apporter, par des contrats qu'on leur passe, des moyens d'essai qu'on leur met à disposition. Et effectivement, comme nos ressources sont quand même limitées, il faut se concentrer sur celles que on pense les plus prometteuses. Donc, ça passe par une phase d'évaluation de ces projets. Donc, on fait des consultations, on lance des appels d'offres, et ça permet d'évaluer les différents projets et finalement de dire c'est tel projet qui nous paraît le plus prometteur et sur lequel on va concentrer notre support, notre soutien, notre aide.
Monsieur Noir, pour revenir aux questions d'éco-responsabilité, vous m'avez dit qu'on allait aussi peut-être changer les systèmes de commande qui sont utilisés à bord des lanceurs. Alors, c'était quoi les systèmes de commande d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils vont devenir ?
Ah, oui, alors. Effectivement, donc, là, en fait, je vais parler plutôt du moteur Prométhée puis de l'étage qui va avec. Bon, jusqu'à présent, on a une difficulté, c'est qu'on utilisait pour commander les étages, on utilisait de l'hélium. Et en fait, il se trouve que l'hélium, c'est un gaz qui est quand même relativement rare.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire commander un étage avec de l'hélium? Ah. Ça veut dire quoi? En fait, c'est des vannes.
Oui, oui, oui. Non, en fait,
un moteur, c'est plein de vannes.
Un moteur, en fait, c'est un ensemble de vannes. Et le rôle des vannes, en fait, c'est d'envoyer donc de l'hélium, en fait, un gaz donc dans un actionneur qui va permettre d'ouvrir et de fermer les vannes.
Donc ma vanne, elle est soit ouverte, soit fermée pour laisser passer les ergols notamment.
Voilà.
Et pour lui dire bah, ferme-toi, ouvre-toi, on envoie de l'hélium, donc on envoie du gaz sous pression.
En fait, il y a une électrovanne. En fait, c'est pas l'hélium qui fait le séquencement.
Ah d'accord.
Il y a une vanne électrique qui fait le séquencement. Et après, donc effectivement, la vanne, elle envoie le gaz dans la position qui correspond à la position ouverte ou alors la position fermée. Donc tout ça, ça conduit à une consommation d'hélium donc pendant le vol qui est non négligeable. Et bon, comme je le disais, il se trouve que l'hélium, en fait, c'est un gaz. On n'en trouve pas partout sur la planète. Il y en a principalement aux États-Unis, en Russie, en Pologne un peu, si je me rappelle bien. Donc dans les objectifs d'éco-responsabilité, il y a aussi l'objectif de consommer moins d'hélium, le moins d'hélium possible. C'est pas uniquement vrai pour commander les étages, c'est aussi vrai pour tout ce qui est assainissement, balayage, etc. Donc en fait, ce qui explique qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des commandes qui sont directement électriques. Alors on va consommer moins d'hélium. Par contre, on consommera un peu plus d'électricité. Donc il y a une optimisation à faire parce que faire des actionneurs électriques en termes de masse et donc de performance, c'est pas complètement neutre non plus. C'est pour ça qu'on en revient un peu aux considérations du début, à savoir faire de l'environnemental. Ça a forcément un coût. Bon, là, il se trouve que c'est des sujets sur lesquels on y arrive, mais c'est un peu le type de débat qu'on peut avoir, en fait.
Peut-être qu'on peut juste expliquer pourquoi on utilise de l'hélium pour commander nos vannes sur les lanceurs et pas n'importe quel gaz, de l'air, par exemple. C'est parce qu'en fait, à la température très froide de l'hydrogène et de l'oxygène, tous les autres gaz que l'hélium se liquéfieraient au contact, à la proximité de ces ergols, et donc on voit bien de l'air qui se liquéfie, il perd son pouvoir de pressurisation pour commander dans une tuyauterie commander une vanne, et donc l'hélium a cette particularité qu'il est à l'état gazeux, y compris à la température de l'hydrogène liquide, voilà. Donc pourquoi on utilise l'hélium sur les fusées?
Une précision, en fait, si l'hélium donc ne se liquéfie pas, c'est qu'en fait il est liquide à une température de 4 degrés Kelvin. Donc en fait on est tout près du zéro absolu. Donc l'hélium, il n'y a absolument aucune chance qu'il se liquéfie en vol, et on est sûr d'avoir du gaz pour commander les vannes, en fait.
Alors, vous avez compris que chez Maya Space, on a envie d'utiliser du biométhane. On veut être éco-responsable. On va utiliser du biométhane que Monsieur Noir est en train de nous préparer avec Bifrost directement au centre spatial guyanais. Bon, ça, c'est une ligne directe. Et alors, il y a ce pas de tir diamant. Donc, si vous allez en page... c'est la page quoi? Bon, bref, vous allez trouver... C'est la page 8, je crois. Page 8, pas de tir diamant à Kourou. Pourquoi est-ce que on a montré ce pas de tir? Alors, c'est un pas de tir qui est même historique, puisque c'est de là qu'a été tiré les diamants, hein. Donc, les premiers lanceurs tirés au CSG, c'était diamant. Donc, ce pas de tir, il existe, mais on va complètement le refaire. Et quel est le but, là? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pas de tir, monsieur Bahut?
Alors, ce qu'on veut faire, c'est justement permettre à tous les micro-lanceurs comme comme Maya, mais d'autres projets qu'on a en Europe, qui existent en Europe, leur offrir un centre de lancement, leur faire profiter finalement de la base de Kourou, qui est une base quand même très expérimentée, et donc voilà, leur mettre à disposition un pas de tir. Pour être lancé dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, on n'a pas prévu d'accueillir tous les micro-lanceurs.
C'est un pas de tir exprès pour les mini et les micro-lanceurs.
Donc, ça sera un pas de tir exprès, effectivement. C'est même plus qu'un pas de tir. Finalement, c'est une zone de lancement sur laquelle on va construire plusieurs pas de tir, puisque un pas de tir est pas interchangeable totalement entre deux lanceurs. Les fonctions terminales qui sont proches du lanceur sont vraiment spécifiques à ce lanceur. Donc, il faut construire plusieurs pas de tir. Et donc, en fonction du nombre de lanceurs qui voudront venir être lancés à Kourou, on construira le nombre de pas de tir qu'il faut.
Et donc là, vous imaginez que Maya, le lanceur Maya, sera tiré depuis ce pas de tir diamant.
Oui, c'est ça, c'est la baseline. Donc, on a manifesté notre intérêt auprès du CNES et on est parmi les sélectionnés, oui, pour faire partie, pour aller construire notre pas de tir dans cette zone diamant.
Alors, bien sûr, Monsieur Noir.
Oui, diamant, en fait, c'est le nom d'un programme spatial qui commence à être très loin maintenant, puisque c'était dans les années 60. Il n'y en a aucun de nous qui était en activité, d'ailleurs. Mais c'est le spatial français qui avait commencé donc à lancer des danseurs à partir d'une base qui était à Amaguir en Algérie, tant que l'Algérie était française. Et après, donc, c'est à ce moment-là qu'on a choisi le site de Kourou, et en particulier le site de Diamant, donc qui permettait de lancer ce lanceur qui s'appelait Diamant. Bon, qui avait quelques centaines de kilos de charge utile, mais bon.
C'était bien pour l'époque.
Bien pour l'époque.
C'était une étape. Est-ce que vous voulez nous décrire ce qu'on voit là, Monsieur Bahu ou Pascal Noir?
Ce qu'on voit sur l'image, c'est donc les zones donc grises qui sont en fait des routes d'accès, des dalles en béton qui permettront de poser les installations qui permettront de faire ces lancements avec des bâtiments de préparation pour les lanceurs, pour les faire leur assemblage final, assembler aussi les charges utiles sur ces lanceurs. Ensuite, ces lanceurs sont transportés via ces routes sur les zones de lancement qui sont schématisées par des cercles sur les dessins. Et de là, décolleront.
Alors, une question ici.
J'avais une petite question sur les pas de tir, justement. Peut-être une question qui va un peu fâcher, mais qui me semble quand même utile. Je sais que parmi nos partenaires européens, il y a certains pays, pour ne citer aucun, qui ont exprimé leurs intentions, leur idée de vouloir faire leur propre pas de tir chez eux. Est-ce que, côté français, est-ce qu'on est vraiment fermé à ça? On veut vraiment imposer ce que Kourou soit l'unique pas de tir, l'unique point de lancement pour tous les projets européens? Ou au contraire, est-ce qu'on n'envisagerait s'y ouvrir à ces idées-là?
Oui, effectivement, il y a des projets d'autres spaceports. Il n'y a pas d'autres spaceports opérationnels aujourd'hui, mais il y a des projets, notamment en Norvège, en Suède ou au Royaume-Uni, en Écosse, qui veulent proposer des services de lancement. Donc, c'est notre rôle de promouvoir ce que l'Europe a mis en place en Guyane, et on pense que c'est la meilleure base du monde, et donc on veut le prouver. Donc on accueille ces micro lanceurs. Alors, pas tous les micro lanceurs non plus. Effectivement, comme disait Léonard, on a fait un appel à candidature pour sélectionner les micro lanceurs qui étaient intéressés par venir à Kourou. Et force a été de constater qu'en fait, pratiquement tous les micro-lanceurs européens étaient intéressés par venir à Kourou, même si c'est très loin, même s'il faut traverser l'Atlantique. Donc voilà, ça montre l'attractivité du port spatial de Kourou qu'on veut continuer à promouvoir. On n'accueillera pas tous les lanceurs du monde. On va se focaliser sur les lanceurs européens, puisque c'est une base spatiale européenne. Voilà.
J'en profitais parce qu'on parlait du pas de tir diamant. Je sais que fallait envoyer des offres pour demander une option d'avoir un pas de tir là-bas. Et je voulais savoir, j'ai pas du tout suivi le sujet. Il y a combien, on s'attend à avoir combien de places de dispo, les pas de tir, comment ça se passerait? Parce que là, vous dites que cette image-là, elle correspond en fait juste à MySpace, ou ça correspond à peu près un pâtir général et en fait ça arrive sur des roues et puis en fait c'est tout le pâtir complet qui bouge et donc du coup chaque lanceur aurait cette procédure de devoir avoir son pâtir mobile ou voilà, c'est principalement ça la question en fait, c'est la logistique, la gestion de fait d'avoir plusieurs pâtirs ou est-ce que chacun pourra genre dans le rayon de 500 mètres autour un kilomètre autour du point central du pâtir diamant avoir son petit pâtir, enfin voilà quoi.
Effectivement, pour l'instant, on n'est plus sur des pas de tir fixes, c'est-à-dire autant de pas de tir que de lanceurs qui voudront décoller.
Parce Donc que ça veut pas... dire que Diamant sera un pas de tir dédié à un lanceur spécifique, c'est ça ?
Non, Diamant sera une zone de lancement sur laquelle on va construire plusieurs pas de tir. Voilà. Enfin, et c'est d'ailleurs, c'est pas le CNES qui va construire tous ces pas de tir, c'est les micro-lanceurs qui voudront être lancés depuis cette zone diamant, construiront leurs pas de tir, on leur mettra à disposition le terrain.
Et du coup, pour tout ce qui concerne la sauvegarde au CSG, on a à peu près, on serait à combien au niveau des distances entre chaque pas de tir ? Parce que du coup, on va se retrouver avec des zones qui, sur le les pas de tir diamant, on va se retrouver avec un espace pas assez large, je suppose.
Dans tous les cas, il y a au moins 200 ou 300 mètres entre chaque pas de tir. Donc ça permet... on n'est pas sur des gros lanceurs. Justement, on a limité la taille des lanceurs aussi pour ça, parce que quand s'il y en a un qui explose, qui rase pas complètement tous les autres pas de tir qui sont autour. Voilà, donc il y a des calculs de zones de danger qui sont faits pour justement aménager toutes ces zones de manière sécure.
Pascal Noir.
J'ai une dernière remarque quand même sur le site de Kourou, parce qu'il n'a pas été choisi par hasard. Il faut quand même qu'on en fasse un peu la promotion. Le fait de tirer à partir de Kourou, ça permet de gagner sur le dimensionnement de la charge utile. Pourquoi ? Parce que bon, en mécanique théorique, en fait, c'est quand on passe d'un référentiel à un autre, de deux référentiels mobiles, il y a un vecteur vitesse qui s'appelle la vitesse d'entraînement. Plus prosaïquement, en fait, c'est un effet de fronde, et le fait d'être à l'équateur fait que cet effet de fronde, il est plus important que quand on est près du pôle ou sur des sites comme Baïkonour ou plutôt en Suède ou en Norvège, etc. Donc il y a un intérêt à partir de Kourou.
Le fait d'être proche de l'équateur fait qu'on est déjà entraîné par la vitesse de rotation de la Terre à cet endroit-là, qui est maximale, hein, parce que on est très loin de l'axe central. Donc c'est comme un manège. Plus on est loin du centre, plus on va vite.
Oui, exactement.
Voilà, c'est ça. Donc c'est ça une des raisons pour lesquelles c'est l'un des meilleurs spatioports au monde, Monsieur Bahut, Jean-Marc Bahut.
Des meilleurs ou en tout cas des plus performants. Voilà, il y en a d'autres qui sont très renommés aux États-Unis ou ailleurs. Il y a une concurrence, hein, c'est sûr.
Alors on va bientôt se quitter, mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Et figurez-vous, dont Pascal Noir est spécialiste, c'est la question de l'intelligence artificielle. Donc, on pourrait avoir de l'intelligence artificielle qui commencerait à entrer dans les lanceurs du futur, Pascal Noir.
En fait, je suis pas vraiment spécialiste de l'intelligence artificielle.
En tout cas, vous connaissez le sujet.
Non, mais ça fait 35 ans que je travaille dans le secteur spatial, et c'est vrai qu'il y a quasiment pas d'intelligence artificielle. Donc, il aurait fallu que je contribue. Et si je suis pas spécialiste, c'est pas un hasard. C'est parce qu'en fait, on cherche à monter en régime sur cette activité-là. Pourquoi ? Parce que bon, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu l'échec donc du vol Ariane 5 517 au début des années 2000, ce qui a été privilégié en fait, c'est la fiabilité. Donc on n'a pas forcément cherché à essayer d'améliorer la performance ou alors l'agilité ou la souplesse d'utilisation que peut apporter l'intelligence artificielle comme sur une voiture. Donc du coup, on a pris un petit peu de retard. Contrairement
quand on veut être fiable, ouais, on est un peu moins innovant.
Alors c'est pas, voilà, oui, c'est pas, faut pas
innover, c'est parfois prendre un risque.
Oui, c'est ça, exactement. Je sais, quand j'étais dans les développements, chaque fois qu'on se présentait avec une modification, il arrivait qu'on se fasse shooter quand même, assez souvent. Maintenant là, je fais partie des projets futurs. Donc l'idée justement, c'est quand on regarde sa voiture, par exemple, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, il y en a partout.
Par exemple, il y en a partout dans une voiture.
Dans les voitures, oui, depuis une dizaine d'années déjà, hein, sur les partout. Alors j'exagère peut-être en disant partout, mais sur les boîtes automatiques, des nouvelles générations, et ça fait même une dizaine d'années en fait, elles s'adaptent à votre conduite avec la façon dont vous enfoncez l'accélérateur. Pour ça, on utilise des logiciels d'apprentissage. Donc tout ça, ça n'existe pas forcément sur les lanceurs, ça n'existe même pas du tout. Donc on cherche un peu à monter en régime sur cette activité-là. C'est une activité qu'on a lancée donc au début de l'année, enfin vers le milieu de l'année. Bon, il y a plusieurs. En fait, c'est très très large. Hein. La difficulté, c'est d'essayer d'identifier en fait le secteur sur lequel on va le faire, parce que ça peut être pour gérer la performance, par exemple, donc sur les logiciels de vol. Ça peut être aussi pour faire des contrôles, bon, parce qu'aujourd'hui il y a des contrôles qui sont faits avec des drones et puis qui renvoient ça à des logiciels qui traitent toutes les données. Ça peut être aussi donc au niveau de la fabrication. Donc c'est un domaine qui est vraiment très large parce que ça concerne à la fois tout le cycle de vie du lanceur. Donc là on en est à un stade où on essaye d'identifier en fait les domaines dans lesquels ça sera le plus performant.
Un moteur, c'est plein de vannes, de tuyaux remplis de méthane, et ça consomme de l'hélium, il n'y en aura pas pour tous les hommes, donc faut l'économiser. En France, on n'a pas d'hélium, ni de pétrole, mais le truc qu'on sait, produire sans effet de serre, c'est l'énergie nucléaire, et c'est bien ça qu'on va faire. Pour nos fusées, on a eu une bonne idée, il suffit de s'inspirer de la nouvelle Renault Zoé, et on mettra des stations de recharge en orbite un peu plus large pour pouvoir se recharger. Il nous reste une petite marge, une question, quelle prise de recharge? Faut-il de l'USB-C, du 220 sur une triplette? C'est pas une question si bête. Si RTE le permet, on volera à l'électricité.
Ah bah oui, c'est pas impossible. D'ailleurs, il y a des moteurs électriques hein, sur les satellites. Hein, on appelle ça des moteurs électriques, c'est vrai. Alors, on va bientôt se quitter. Si vous avez envie de poser une ou deux questions, il faut en profiter, je vous en prie.
Oui, je pensais une chose un peu accessoire, mais c'est la stabilité politique des Guyanais, là, à Kourou, puisque en Algérie, on sait ce qui s'est passé pour nous. Alors là, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous savez de tout ça?
Stabilité politique, stabilité sociale aussi.
Bah, c'est un département français, donc c'est quand même un peu différent de l'Algérie de l'époque. Enfin, avec les conflits qu'on connaît, mais... Bon, c'est sûr que c'est un territoire qu'il faut aider, qu'il faut et justement le centre spatial de Kourou permet quand même d'apporter de l'activité à ce territoire-là.
L'activité, il n'y en a pas beaucoup hein, sur place.
Non, l'activité.
L'agriculture, est très compliquée là-bas en réalité.
La Guyane française, en fait,
c'est tout petit, la Guyane. Hein.
C'est très grand. Par contre, c'est à 99% de la forêt vierge.
C'est que de la forêt. Oui, 99%, c'est de la forêt.
Il
hein.
y a une petite bande côtière où il y a quelques villes avec de l'activité. Donc, effectivement, il faut faire attention. Et le CNES est très précautionneux dans ses activités là-bas pour être sûr qu'effectivement elle s'intègre bien dans un écosystème et une politique locale dans de bonnes conditions pour que justement il n'y ait pas de problème et de conflits. Mais de temps en temps il y a des conflits quand même.
Et alors Pascal Noir, vous dans votre projet Bifrost, vous l'avez conçu avec des agronomes locaux notamment. Hein, on essaye d'intégrer l'expertise locale.
Oui, c'est l'intérêt du projet Bifrost en fait, c'est qu'on va pas s'appuyer sur une production qui soit dans les Caraïbes, sur les ports méthaniers ou du méthane qu'on ferait venir de métropole. D'abord, ça coûterait beaucoup trop cher, ça coûterait l'équivalent en gros d'une installation par an. Et c'est vrai qu'il y a quand même des zones d'instabilité.
Ça coûterait l'équivalent d'une installation de biométhane par an.
Oui, le fait de le faire venir en Guyane, ouais. C'est à peu près 4 fois plus cher que de le produire localement.
Donc la question se pose pas, on y va là vers Bifrost.
On essaye de.
Enfin, vous avez mon vote en tout cas. Hein.
Comment?
Vous avez mon vote.
Oui.
D'accord.
Merci, on vous en remercie. Non, bah effectivement, le projet Bifrost, il contribue à ça parce qu'il va faire travailler des réseaux locaux, des réseaux locaux d'agriculture. Et après, donc, ça va aussi les insérer dans le cycle, puisque justement, la réexploitation des digestats derrière, ça va aussi servir pour fertiliser l'agriculture. Mais c'est un des critères, hein, donc, le fait que ça, il y a un intérêt social et économique pour la Guyane.
Je voulais vous demander la fusée MySpace, MySpace, elle sera produite du côté de Toulouse et avec des techniques d'impression 3D, enfin, des choses comme ça, ou avec des nouveaux matériaux?
Non, pas du tout. Toulouse, c'est plutôt côté satellite. Les lanceurs, c'est vraiment ce qui se passe autour de Paris, hein, Paris et la Normandie avec Vernon. Donc nous, en fait, notre vision long terme industrielle, elle est pas du tout définie. Mais en tout cas, à court terme, pour nos démonstrations, pour apprendre, pour développer, on s'appuie sur deux pôles. Donc le pôle parisien à la Défense. Pour l'instant, nos bureaux sont à la Défense. On grossit, donc il faudra qu'on s'adapte. Et le pôle assemblage ESS, c'est plutôt à Vernon, dans les locaux et les zones d'Ariane Group, là, à Vernon. Et je ne sais plus s'il y avait une deuxième question. Ah oui, impression 3D, non. Alors, c'est surtout impression 3D, il y a une limitation de volume. Hein, il y a de plus en plus de technologies qui apparaissent. Il y a même on parlait de concurrents, là, qui n'est pas dans la photo, mais c'est Relativity Space qui fait le pari d'une impression généralisée de leur fusée en fabrication additive. Mais voilà, l'Europe n'est pas en reste, donc sur la partie motorisation, hein, y a déjà des pièces en fabrication additive qui volent, je crois sur Ariane 5, en tout cas sur Ariane 6, ça va être de plus en plus généralisé. Et sur Prometheus, je crois que c'est 50% ou 80% des pièces pas trop critiques d'un point de vue thermique qui vont être fabriquées en fabrication additive. Donc c'est sûr que c'est une promesse, en fait, la fabrication additive, ça permet de
d'être créatif. C'est l'impression 3D, hein, après, ouais, fabrication additive, et impression 3D,
il y a chose, plein de jargon, ouais, c'est ça. Ça permet d'être créatif en termes de forme. On n'est plus dans la fabrication soustractive, mais la fabrication additive, tout simplement. Donc, on est beaucoup plus créatif et ça permet d'être plus innovant parfois. Par contre, c'est pas la panacée. Parfois, il faut en mettre au juste besoin, quoi.
Alors, on a des rendez-vous qui viennent. Qu'est-ce qu'on a comme rendez-vous? Alors, le prochain, c'est le 4 janvier. Ce sera ici même. Et ce sera dans le cadre des Barres des Sciences. Un bar des sciences consacré au rajeunissement des cellules humaines. Deux points. La fontaine de jouvence n'est plus un mythe pour l'interrogation. On va se poser la question parce qu'il y a eu une grande avancée hein, dans ce domaine-là récemment. Donc ça va être intéressant d'en parler mercredi 4 janvier. On a également rendez-vous pour un prochain mardi de l'espace. Donc c'est le 17 janvier. On va parler de SWOT. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais le satellite SWOT vient d'être lancé avec succès. C'est un satellite tout à fait extraordinaire qui est capable, depuis l'espace, de monitorer, de surveiller toutes les questions d'humidité et d'eau à la surface de la Terre, aussi bien les océans que les lacs, les rivières. Donc, soit on va en parler, l'eau sous protection, ce sera le 17 janvier. Et puis, vous savez que maintenant, les mardis de l'espace, il y en a aussi à Toulouse. Eh bien, la semaine d'après, donc ce sera pas le 17, mais donc le 24, à Toulouse, il y aura un mardi de l'espace consacré à SWOT. Également, donc si vous passez par Toulouse, eh bien voilà, vous pourrez y avoir accès également. Donc on voit au terme de cette soirée qu'on a vraiment un printemps concernant les lanceurs avec plein de nouveaux projets, aussi bien dans les mini-micro-lanceurs et puis aussi dans les méga-lanceurs. Des lanceurs qui vont tous probablement devenir plus ou moins réutilisables, qui vont devenir éco-responsables pour certains d'entre eux, dans lesquels on va intégrer de l'intelligence artificielle. On voit que le centre spatial guyanais s'adapte avec ce projet Bifrost, la production de biométhane. Merci beaucoup, Jean-Marc Bahut, d'être venu pour nous expliquer tout cela, et Pascal Noir, pour avoir partagé votre expertise. Et puis, on souhaite bonne chance à Léonard Pinault pour ce projet magnifique, Maya Space. Il y a 150 lanceurs à côté du vôtre, mais on est sûr que c'est le vôtre qui va aller le plus loin. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup, bonne soirée, et puis on se donne rendez-vous dans un mois. Au revoir.